Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ? Allez, on peut commencer, mais est-ce que tout le monde est là ? Est-ce que Mathieu, t'es là ?
Oui.
Déborah ?
Oui.
Antoine ?
Présent.
Judith ?
Oui.
Alexandre ?
Absolument.
Très bien, tout le monde est au complet pour cette réunion spéciale. Donc on reprend la réunion de la semaine dernière sur les pires films de l'année, puisqu'on est payé pour être encore plus méchant et vilain que d'habitude. On avait commencé à faire la liste des 10 pires films de l'année, mais on avait quasiment atteint une heure, donc on a dit qu'on allait fermer notre gueule pour reprendre cette semaine. Alors je rappelle, en 10e position, on avait Shazam 2. En 9e position, 65, La Terre d'avant, le navet des dinosaures avec Adam Driver, vous savez. En 8e, un autre navet, Dogman, de Luc Besson. En 7e position, Une année difficile. En 6e, L'exorciste dévotion. Ça fait un joli tableau de chasse de traumatisme de 2023. Alors je sais que depuis une semaine, vous n'avez pas dormi, d'impatience, de curiosité de savoir quels étaient les 5 premiers comme si c'était pas nous qui les avions choisis. Donc on n'attend pas une seconde, on reprend, on était au 5e pire film de l'année, et le 5e pire film de l'année, c'est encore une merde horrifique qu'on a vu Judith, Mathieu et moi un vendredi soir dans un cinéma, par souci de professionnalisme. Qu'est-ce que c'était ?
Évidemment, le rendez-vous annuel du Conjuringverse, la nonne 2. Que ouais, non mais est-ce que ça influe vraiment sur la note le fait que on doive se le taper un vendredi soir alors qu'on a, on aimerait tous être en week-end?
Bah, Antoine a parlé de la séance de Blue Beetle qui était moins pire parce qu'il était shooté au café un mercredi, donc je pense que l'horaire a un incidence. Ah hein, bon,
on avait eu un coup avant, non? Il me semble qu'en attendant la séance.
Ah oui, si. Ouais. Chut, faut pas.
C'était clairement la meilleure partie de la soirée.
C'est dire.
Ok. Donc, plus méprisant que Judith, il y a
<C'est une>
Warner. Non, mais oui, voilà. Bah, est-ce que c'est le pire film du Conjuringverse ? On en a largement débattu lors d'une précédente réunion. Mais il a vraiment fait l'unanimité hein, comme étant probablement le pire film d'horreur, je pense.
Je crois que même les goûts douteux de Judith qui avait la belle 3 le trouve vraiment pire.
Qui avait même une ou deux scènes positives à sauver dans La Nonne 1, ce qui était déjà...
Ouais, non, mais là, il n'y a vraiment plus rien à sauver. Ouais. C'est un enchaînement de carcans blindés de jumpscares qui ne font même plus effet, car c'est même pas assez bien pour que le jumpscare fonctionne sur toi. Ça bafoue tout ce qui fait qu'un film d'horreur est bien, en fait. C'est-à-dire que c'est même pas découpé comme un film d'horreur. Certaines scènes sont complètement découpées. Alors, on avait déjà cité l'exemple de ce moment où il y a le genre de démon de l'enfer qui court vers l'héroïne, et les mecs te découpent ça comme dans un Michael Bay. Tu te dis, mais... Non, ça fait pas peur du coup, arrêtez. C'est très chiant, c'est très laid, c'est les films Marvel mais sans l'action, hein, c'est dire. C'est vraiment très très chiant et c'est d'autant plus nul que je trouve, autant il y a une époque où le Conjuringverse était un peu le gros leader avec Blumhouse peut-être du cinéma mainstream américain. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a des alternatives encore. Et je pense à La Main, par exemple, que moi j'ai beaucoup aimé, qui est sorti cette année.
Vraiment, vraiment.
Et qui, en plus, tu vois, c'est pas comme si parce que tu vois, c'est pas comme si j'opposais un truc à la Hérédité que beaucoup de gens ont considéré, bon à tort, hein, comme un truc un peu arty. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un film aussi d'horreur grand public pour ados, entre guillemets. Enfin, c'est vers. Enfin, ça parle de cette génération-là, c'est la cible, entre guillemets, c'est cette génération-là. Et qu'il y a pas. Tant qu'il y a du cul pour chier droit, quoi, c'est vachement mieux. Parce que non seulement ça raconte quelque chose, mais même en termes d'épouvante, il y a quelques idées de temps en temps. Ils essayent des trucs, même la photo, elle essaye des trucs. La Nonne 2, il n'y a absolument rien. Et en fait, c'est même pas vraiment un nanar. Hein, pour ça, il y a l'exorciste du Vatican qui est parfois un peu drôle. C'est juste navrant. Et oui, bah, la dose de catoporn, on commence à en avoir marre. Ça fait 10 ans qu'on prend des bénitiers, des croix retournées. Et quand ça devient vraiment plus qu'un gimmick, il n'y a plus aucun discours sur la mythologie catholique, qui est par ailleurs intéressante. Hein, il y a vraiment plus grand chose à en dire. Alors moi, je trouve que le truc le plus divertissant du film, c'est tous les moments où ils disent Maurice, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Maurice. C'est un peu comme quand tu regardes le dernier duel et qu'ils disent Jacques le Rouge.
Jacques Gris, le Gris.
Ah, le Gris, pardon, sorry. Mais au moins, le dernier duel, c'était marrant et c'était gore sur la fin. Alors
c'était
que là,
marrant,
il n'y a même
ouais.
pas ça.
Non, on se marrait devant le dernier duel. Non, c'est... Moi, c'était la marade à part de
la
flèche.
C'était marrant
je
à la fin parce
rigole.
Que c'était gore. Mais le film est très bien, bien évidemment.
Mais du coup, mais qu'est-ce qui déconne dans La Nonne 2 et qui marchotait jusque-là dans l'univers à vos yeux? Alors, c'est quoi c'est... On peut juste réduire ça à la mise en scène du film qui est moins réussie qu'avant?
Il ne restait plus que ça, donc...
Moi, juste en termes de ressenti, ça s'explique par du montage, de la mise en scène, tout ce que tu veux, mais il y a tout simplement le fait que ça fait plus peur. Il n'y a absolument plus rien qui ne fait
mais
peur.
Mais t'avais peur devant les autres films, t'as eu peur devant La Nonne 1. Parce qu'on peut commencer par parler de ça. Hein.
Non, mais alors, on va pas refaire toute la revue de l'autre fois, mais disons, La Nonne 1, je trouvais qu'il y avait de bonnes idées pour réussir à faire peur. Encore une fois, la scène de la redécouverte du cadavre dans la crypte au début du film, la scène dans le cimetière avec les cloches qui commencent à s'agiter. Je veux dire, évidemment que j'ai réussi à dormir après ce film, mais le premier Conjuring, par exemple, me faisait vraiment peur. Annabelle 2, ça m'a fait vraiment peur. Et jusque-là, je trouvais qu'il y avait quand même encore des frissons à gagner, on va dire, même dans voilà, La Nonne 1, qui était quand même vraiment nul, je trouvais qu'il y avait 2-3 trucs à retenir. Là, il n'y a plus aucune sensation, et donc surtout pas de la peur, parce que comme le disait Mathieu, le montage désamorce sans cesse la moindre tentative de petit suspense ou de frisson, et vraiment pour toujours basculer sur l'angle de caméra qui est le moins effectif, le moins pertinent.
C'est
presque
un exploit à ce niveau-là.
Ouais, ouais, vraiment, on dirait que c'est vraiment fait exprès, et ce que disait un petit peu tout à l'heure Déborah sur les Marvel, avec le fait qu'on n'assume plus d'avoir des sentiments un petit peu sérieux et qu'on est toujours en train de désamorcer le moindre début d'émotion, bah là c'est pareil mais avec la peur, alors qu'on vient vraiment que pour avoir peur, il n'y a rien d'autre à faire avec ce film-là.
Je pense que ça a juste le mérite de lancer un débat important sur le pastis. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon?
J'étais sûr, t'as déjà posé cette bombe dans ta critique et les gens n'ont parlé que de ça quoi. Non mais c'est vrai que ce qui est un peu désolant, c'est que dans les autres, je suis pas un grand fan des Conjuring, mais même dans les mauvais films, il y avait au moins une ou deux petites idées amusantes qui sont ludiques. En fait, tu te dis, je ressors du film, c'est nul à 90%, mais au moins cette scène-là, elle est un peu amusante. Il y a un truc un peu de malice. La personne qui a écrit ça, qui l'a mis en scène, est malin. Et là, il y en a pas. En fait, les moments qui sont censés être comme ça, c'est genre la fameuse scène avec le kiosque à journaux, où ils tournent tous pour former. Alors ça, c'est une idée qui est en théorie amusante, qu'ils ont vachement teasé dans la promo et tout ça. Dans le film, c'est tellement encapsulé avec une ellipse après qu'en fait il y a même pas trop dans... on dirait un teaser du film en plein milieu du film, et en plus ça devient un peu grotesque, un peu comme la tache sur la tapisserie d'humidité. Là, je sais, quand on a vu le film, vous avez rigolé dans la salle. Moi, j'essaie de me projeter, d'être dans la sensation, de me dire je le prends au sérieux, et vous avez fait quand ça arrive.
Les taches d'humidité, ça fait très peur, hein. Vu tous les dégâts des eaux que j'ai eu, je peux te dire vraiment c'est...
Mais là, c'est pas une tache d'humidité, c'est un photocopié,
c'est un portrait photoréaliste.
Oui, tu sais, il y a même pas la suggestion, tu vois, c'est pas genre The Night House, comment ça s'appelle en
VF. Je m'en rappelle pas.
Ah, tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu. Bah, en fait, j'étais un petit peu gênée, genre, parce que j'ai pas trop fait mes devoirs, je me suis pas trop replongée dans le film, et je me rends compte que je me rappelle que j'ai vu le film, parce que le truc de kiosque à journaux, là, c'est bon, genre, je m'en
D'accord.
rappelle.
Donc, je m'en veux pas d'avoir oublié que t'avais vu le film, puisque toi-même, t'avais oublié que tu
voilà.
l'avais vu.
Voilà. Mais de source sûre, voilà, je sais que j'ai vu
de
le film.
De source sûre.
La source sûre étant moi-même, donc, du coup, voilà. Mais ouais, y a rien de marquant, mais ça, le truc de kiosque à journaux, enfin, voilà, t'en parles, du coup, ça me rappelle ouais. que j'ai vu le film.
Mais c'est un peu la seule idée visuelle du film qui est même pas extrêmement réussie dans le
et
film.
Encore une fois, il termine ça avec un jumpscare extrêmement platement, enfin, c'est-à-dire que même quand ils ont un embryon de bonnes idées, il faut qu'ils le flinguent. Quoi. Ouais.
Et surtout, moi j'ai été choqué à l'époque de l'ellipse, elle s'évanouit et tu reprends l'histoire, donc en fait il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de suivi de. Ouais. En fait, après, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est devant toi, la nonne? Est-ce qu'elle va te poursuivre, te toucher? Bah non, tu disparais. Et c'est le problème qu'il y a dans le film, notamment à la fin. Je trouve que la En fait, les pouvoirs de toutes les entités démoniaques n'ont aucun sens. Les trucs se mettent à courir dans les escaliers, s'arrêtent derrière une porte. Après, ils apparaissent dans la pièce où tu es. Ils passent à côté de toi, ils t'entendent. Tu te caches derrière un coffre en disant pour chuchoter, ils t'entendent pas. Et en fait, jusqu'au bout du film, ça n'a aucun sens. C'est juste eux qui décident à un moment d'appuyer sur la touche. Il viendra pas te toucher, comme un truc scripté dans un mauvais jeu vidéo. Et c'est ça qui fait que jusqu'au bout, c'est ridicule. Alors que, au moins dans le premier, la nonne, tu comprenais un peu, ça avait un peu plus de sens, la manière dont elle jouait, dont elle vraiment faisait peur et s'accrochait aux gens pour les poursuivre. Alors là, que vraiment, ça n'a plus aucun sens, quoi.
Et la fin du film, c'est vraiment le festival, le pire festival du n'importe quoi qu'on puisse imaginer, avec ces histoires de tonneaux de vin et compagnie, là.
C'est quoi, mais... déjà ? Je me souviens plus.
Bah, je sais plus quelle est, parce qu'en gros, donc il y a plein de tonneaux de vin qui explosent parce qu'elles sont dans une sorte de cave. Ouais. Mais
quoi,
comme le vin, c'est
elle
censé.
Elle peut bénir le vin, non ? C'est pas ça ?
Bah, c'est censé devenir le sang du Christ.
En tant que
du
super nonne qui s'ignore, je crois qu'elle peut toucher le vin et dire ah là là là, et puis c'est bon.
Ah, peut-être bien, parce que du coup, le vin est censé être le sang du Christ, et du coup, ça a le même effet que s'ils étaient plongés dans une...
Elle fait exploser les tonneaux de vin, et la nonne au milieu hurle dans un espèce de geyser de CGI de merde, elle a gagné.
Mais j'avais oublié qu'il y avait la nonne dans la nonne, moi je me rappelais juste du gars possédé, je croyais que c'était lui le méchant.
Maurice,
voilà, putain, le fameux. Mais vraiment, promis, j'ai vu ce film, mais juste, je l'ai entièrement oublié.
Mais vraiment, non, ce qui est vraiment catastrophique, c'est dans ce que ça raconte, le moment où ils essayent de tisser un lien, du coup, entre le personnage de la gentille nonne, du coup, Thaïssa Farmiga, avec Vera Farmiga qui joue Lorraine Warren dans Les Conjuring, et où en fait ils essaient de nous dire que Thaïssa Farmiga est une descendante de Sainte Lucie et que donc Lorraine Warren, qui a quand même été une pourriture dans sa vie, maintenant on le sait, on en a largement parlé aussi dans la réunion sur Les Conjuringverse, comme si Lorraine Warren était elle-même une descendante de Sainte Lucie. Et là on arrive sur vraiment, enfin je veux dire, tu peux pas faire ce genre de choses avec des gens qui ont vraiment existé, c'est pas possible.
Le lien n'a pas été officiellement donné dans la saga, ça c'est nous qui l'imaginons, le lien entre les deux.
Ça c'est évident quand même.
Ça n'a jamais été explicité, ou alors j'ai loupé le truc. Non,
je pense pas qu'il y a aucun personnage qui arrive, enfin c'est comme à la fin de la série Seigneur des Anneaux, il y a personne qui dit ah bah c'était Gandalf. Tu peux penser que c'est Glanduf, mais mais bon, excuse-moi, il dit la même réplique, c'est le même bonhomme. Bah là, c'est la même chose. Enfin, pour moi, c'est de toute évidence.
Les actrices sont sœurs, ils font un.
Oui, voilà.
Tu vois, on passe d'un plan à l'autre sur leur visage, on voit qu'elles se ressemblent. Enfin, je sais pas.
Mais comme tu dis, c'est vraiment prendre des escrocs, hein, pour le dire, et en faire désormais littéralement des super-héros, puisqu'ils calquent la formule MCU. Donc, ouais, c'est un peu chaud, quoi.
Il y a des trucs très drôles aussi dans le film, c'est que la scène post-générique, tu vois les Warren répondre au téléphone, qui est censé être, je sais pas, un teasing de quelque chose que le réal a lui-même dit. C'est une scène tirée de Conjuring 3, c'est ça ?
Ouais.
Et je me disais que c'était malin, parce que les gens n'allaient pas reconnaître.
Il s'est dit, personne va s'en rendre compte. Ouais. Bah, tout le monde s'en fout, surtout.
Mais exactement. Ça qui est terrible, c'est que vraiment, quand le film se finit, tu te dis, bon, on reste, parce que bon, on est là pour le travail, donc on reste jusqu'à la fin pour rigoler ensemble une fois que la salle sera vide. On regarde la scène post-générique et je sais qu'on s'est arrêté en se regardant, en se demandant mais qu'est-ce que c'était censé me teaser ? Parce qu'on sait que du coup Maurice, il est pas vraiment libéré à la fin, puisque dans le premier conjuring, Maurice n'est pas vraiment libéré, puisque après il y a une séance d'exorcisme quand il est plus vieux, qu'on a vu au tout début du premier conjuring, il me semble. Donc à la fin il joue, oui Déborah, tu n'es pas prête pour tout ça.
Mais en gros il y a le Warren qui projette cette séquence là comme c'est un des moyens qu'ils ont de montrer qui sont les Warren au début du premier Conjuring quand ils introduisent l'univers, et du coup ils capitalisent là-dessus.
C'est pour ça que le dans la nonne 1 quand il apparaît, tu sais que Maurice il a un rapport avec le Conjuring, c'était un des trucs qui était mis en place. On s'en bat les couilles, t'inquiète pas. Mais toujours est-il que quand à la fin ça finit par ils répondent au téléphone et que c'est fini, tu te dis mais c'est du foutage de gueule, qu'est-ce qui est censé être excitant, même si c'était une nouvelle scène tournée avec ces acteurs. C'est, ils répondent au téléphone, tu vois, on a ce degré de non-teasing qu'ils approchent, ça m'a tué ça. Bon bref, la non 2 c'était pas bien. En quatrième position, on va parler d'un des grands drames de l'année pour les fans de Stallone, on va parler d'Expendables 4. Allez Déborah, on sait que c'est toi qui vas en parler, l'experte en Stallone.
Vraiment, je suis sortie de la séance, je me suis dit j'ai rien à dire sur ce film, j'ai fait une vidéo de 12 minutes au final parce que je me suis rendu compte que j'avais trop de choses à dire, que j'avais trop de comptes à régler avec ce film. Bon, clairement c'est pas, enfin Expendables c'est pas une franchise dont je suis fan, je reconnais des choses au premier ou au deuxième film, je conchise sur le troisième, j'aimerais oublier le quatrième.
C'est quoi le pire du coup, le troisième?
le quatrième clairement. Mais en fait, ce qui m'intéressait dans le film, c'était cette espèce de passage de relais qui avait été teasé, c'était au cœur de la promo, de ce serait en gros la dernière mission de Barney qui passera le flambeau à Lee Christmas.
Barney, c'est qui ? C'est Stallone ?
Oui, voilà.
Parce que j'ai jamais vu ces films.
Donc Stallone qui passe le relais à Statham, et Statham en gros qui prendra la relève de la franchise parce que Stallone, il est vieux. Voilà, en gros, c'était clairement ça qui m'intéressait. Je voulais voir comment tout ça allait être mis en scène. Et surtout, il y avait le retour à un classement R, là où le 3, en fait, c'était du PG-13. C'est-à-dire que le concept même de la saga de faire de l'actionneur bien bourrin, bien dégueulasse, façon années 80-90, bah, ça s'était pété la gueule. Donc là, il y avait la promesse de ce retour de quelque chose de burné, si je puis dire. Et comment dire bon, déjà, vu qu'on parlait de les circonstances dans lesquelles on regarde les films qui peuvent influer sur le jugement, on n'a pas eu de projo presse, du coup, je suis allée le rattraper le mercredi en salle, j'ai dû me taper et la critique et la vidéo, ça m'a énervée. Donc, j'étais pas partie du bon pied avec le film, et surtout, bon, bah, c'est affligeant. Enfin, c'est affligeant, le film a coûté 100 millions, ce ne sont que des fonds verts, mais d'une laideur abyssale. Mais tu sais, les fonds verts des années 2000, genre ceux sur des paysages qui bougent pas. On dirait un peu comme quand tu vas faire une vieille photo de famille, tu sais, avec les fonds qui se déroulent comme ça. Genre, vraiment, t'as l'impression que t'es là-dessus. Bah, il y a quand même un moment, une scène, on est dans des îles et tout ça, il n'y a pas de vent qui bouge dans les arbres, l'eau est statique, enfin vraiment, c'est infâme. Et bah, côté bagarre, bah, y a plus rien, mais en même temps, y a plus de casting. Enfin, je veux dire, y a plus Stallone.
Y a
déjà.
Qui a l'air d'en suivre à part Statham?
Bah, en fait, au début, y a. Bon, allez, on spoil, hein, comme des gros porcs. Au début, bon, bah, t'as le personnage de Stallone qui meurt en mission.
Quoi? Et ouais.
Choqué. Et non mais par contre, enfin, il y avait vraiment ça arrive au bout de même pas une demi-heure de film et il y a quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire que Stallone ne fait pas mourir ses personnages. Il ne veut pas, hein, il a déjà revendiqué plusieurs fois en interview, il trouve que le monde est suffisamment sombre pour ne pas avoir à tomber dans voilà.
Ouais, est-ce qu'on peut prendre une seconde pour soupirer là,
Donc voilà, il ne fait pas mourir ses héros. Voilà, hein, on l'a vu avec Rocky et Rambo, ils peuvent résister à tout. Rambo, il s'est pris genre 48 chargeurs dans le bide, il est toujours vivant, enfin bref, voilà. Et là, il y avait quelque chose de tellement bizarre, du coup, à voir Barney Ross mourir de façon aussi peu héroïque, hein, parce qu'il meurt clairement comme une merde avec un missile dans son avion. On voit son cadavre calciné, enfin... En voyant le truc, je me suis dit, ok, les bagarres, c'était nul, les fonds verts, c'était moche, mais stop, on met sur pause, parce que là, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Donc moi, je me suis raccrochée à ça pendant tout le film, parce que bah, sinon...
Tu t'es accrochée au cadavre de Stallone.
Voilà, je me suis accrochée au cadavre calciné de Stallone, dans mon plaisir, on en est.
En plus, hein, vraiment, le plan est immonde.
et donc là, je me dis, ok, le film... ce sera de la merde, hein. Vu comme c'est parti, ce sera de la merde, mais je vais me raccrocher à ça parce que là il y a quelque chose d'intéressant en fait, parce que la promo de Expendables 4 ça a été mais tout un bordel, ça a été pris dans l'enfer de développement, donc le développement qui dure pendant des années et des années, des pauses, des pas pauses, et à ce moment là je me suis dit mais c'est quoi alors, c'est là comme ça 76 ans Stallone qui a un éclair de sagesse et d'humilité et qui se dit bon bah là pour passer le flambeau je vais le passer comme jamais je l'ai passé avant, que ce soit dans Creed, enfin principalement dans Creed, bon bah là voilà je vais mourir et ce sera une première dans ma carrière, et donc du coup ça marque un précédent quoi, genre il y a quelque chose qui avait jamais été touché jusque là, soit c'était un gros fuck de sa part en fait au producteur, en mode bon bah voilà vous voulez m'éjecter de la franchise, bah maintenant démerdez-vous et ça se passera comme ça et moi je veux rester qu'une demi-heure dans le film, j'ai fait mes scènes, je me barre. Donc ok, il y a ça d'intéressant, le film de merde se passe, hein, voilà on reviendra un peu plus en détail sur pourquoi c'est raté, et là à la fin du climax, bah Stallone revient. Et là, vraiment, j'étais dans une salle de cinéma, donc je peux pas éructer comme ça, mais va te faire foutre et tout, parce que bah nous, on est dans une salle de cinéma, faut respecter les gens. Mais vraiment, j'étais... mais on m'a prise pour une conne, Déborah. Vraiment.
On sent qui serait Déborah s'il n'y avait pas des règles dans la société. Ça fait partie de ces gens fous.
J'ai plus le film, mais j'ai du mal à y croire, genre vraiment.
Mais genre vraiment, le film s'est foutu de ma gueule, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé le moyen de ne rien faire faire à Stallone, parce que voilà, Stallone, il a une scène d'action, c'est sa doublure qui envoie un gars par-dessus un comptoir, et tu vois clairement que c'est sa doublure, hein, sinon. Donc là, ils ont trouvé le moyen, en fait, de juste lui faire faire appuyer sur une fausse gâchette et le cul assis dans un hélico qui ne fout rien. Et ça reste quand même le personnage au centre, parce qu'on te dit que quand même, c'était un petit malin, il a simulé sa mort, voilà, personne l'avait vu venir, parce que lui, il avait compris, en fait, depuis le début qu'il fallait piéger une personne et tout. Enfin bref, d'un coup, on t'en fait genre le cœur de l'opération, le cerveau de tout et tout ça. Enfin, c'est ridicule au possible. Donc du coup, la seule mission qu'avait que devait remplir le film, c'était de passer le relais à Statham, et ben c'est pas fait. Donc voilà, t'avais un job, il est pas fait. Je m'énerve un peu.
On a perdu Déborah, c'est fini.
T'avais un job, il est pas fait. Statham, il est, au final, tu sais pas trop pourquoi, machin, tout ça. Donc ça, c'est un des premiers aspects qui m'a... Mais...
C'était le premier de mes 14 points sur Expect Déborah.
Il va falloir s'arrêter, madame. Il va falloir s'arrêter.
D'accord, bon. Bref, le film a coûté 100 millions. Il est moche comme un asylum. Enfin, c'est pas normal. Et voilà, de deux, il y a le traitement des personnages féminins. Et je sais que c'est peut-être débile de s'attarder sur le traitement des personnages féminins dans la franchise Expandables, parce que bah, comme je l'avais dit en vidéo, les femmes sont les Expandables parmi les Expandables, mais là je suis quelqu'un de très naïf et d'optimiste, donc j'ai vu deux femmes au casting dont Megan Fox, et Megan Fox c'est une personnalité qui m'intéresse beaucoup et que je trouve assez fascinante, et je trouve qu'elle est trop facilement moquée, et là je me suis dit mais attends, mais il y a un concept de la franchise super intéressant, enfin une continuité du concept intéressant, parce que là on n'est pas juste dans les acteurs qui sont trop vieux et qui ont été délaissés. Là, on est sur une actrice qui veut peut-être prendre sa revanche sur Hollywood, parce qu'on sait très bien le parcours de Megan Fox a été très compliqué. Elle a eu un début de carrière qui a été sapé, elle a été moquée, hyper sexualisée, et au final, c'est une Expendables de l'industrie. Donc, la voir revenir dans le rôle de la chef des Expendables, pour moi, ça avait de la valeur. Au final, elle est... c'est dégueulasse la façon dont elle est écrite. Enfin, la première fois que tu la vois, elle joue une hystérique. Voilà, j'aime pas utiliser le mot hystérique, mais là, clairement, elle joue une hystérique. Donc déjà, ça m'énerve. Elle sert à rien, elle se bat pas. Bref, c'est nul. Il y a encore des érotisations de violence conjugale, ce qui est un truc qui m'ulcère au possible. Et la deuxième Expendables, concrètement, elle est là pour qu'un autre personnage fasse des blagues de cul sur elle. Et voilà, alors qu'en plus, elle a une micro scène d'action où on voit tout le potentiel niveau bagarre qu'elle aurait pu apporter, mais non. Et en plus... Le film se permet d'avoir un discours féministe. Alors ça, pas possible. Ou au bout d'un moment, il y a un influenceur qui est là et en fait qui traite les femmes de putes et machin, tout ça. Et donc du coup, il y a Statham qui va lui casser la gueule en lui disant « Ouais, je vais t'apprendre à respecter les femmes et tout, mais ta gueule, le film ne respecte pas les femmes !» Enfin, c'est une incompréhension totale, ce film.
Alors, troisième point.
J'allais dire, est-ce que tu autorises Antoine à parler ou...
Vas-y, Antoine.
Ah, je sais pas trop quoi dire après à cet exposé aussi complet. Si ce n'est que, bon, moi, je l'ai rattrapé sur les conseils de Déborah. Du coup, je me suis dit...
Je pouvais pas être seule à avoir l'hallucination du truc. Il fallait que quelqu'un me soutienne.
Ouais, et je trouve que c'est beau dans l'équipe d'Écran Large. On est quand même globalement à se soutenir les uns les autres dans l'horreur.
Sauf une année difficile et Dogman.
Bande de lâcheurs, ouais. Mais du coup, Expendables 4, je voulais le rattraper. Et bah, un peu comme Déborah, même si j'avais été un peu teasé, j'ai halluciné du début à la fin. Alors c'est vrai qu'en plus, bon, la bande-annonce vendait déjà un peu du rêve sur les effets spéciaux, mais moi c'est forcément un truc sur lequel je tique. Comment un truc pareil peut coûter 100 millions de dollars, c'est juste aberrant.
Ouais, je crois que personne n'a compris ça.
Surtout qu'il faut quand même bien préciser qu'en fait, t'as deux scènes d'action. Enfin, techniquement quoi, t'as la séquence d'action au début sur l'espèce de base qu'ils attaquent, et donc avec l'avion qui finit par la mort de Stallone, t'as l'espèce de gros ventre mou au milieu où il se passe rien, si ce n'est que tu comprends qu'il va être le méchant, qui est un traître. Donc spoiler, Sandy Garcia. Oh. Quelle surprise, on l'avait pas deviné. Mmh. Et donc,
vraiment plus aucun intérêt à regarder ce film.
Et donc Statham qui perd le pouvoir qu'il était censé avoir, parce que techniquement c'est de sa faute si Stallone est mort. Et après toute la fin qui se passe donc sur le bateau sur lequel ils sont censés aller et où tout le monde se fait emprisonner jusqu'à ce que Statham débarque, libère tout le monde et que c'est la baston finale jusqu'au moment où Stallone redébarque et voilà. Mais en fait du coup tout est fait sur fond vert, sur un vieux bateau plus ou moins fait en studio avec tout le fond derrière qui est en fond vert dégueulasse quoi. Et tout le film. Et en fait, tu passes le film, je me suis dit, le 3 était un peu radin comme ça déjà, mais le 3 avait au moins le mérite d'avoir la scène du train au début qui était un peu rigolote. Mais même là, le film était un peu... Enfin, le climax de fin du 3, c'est déjà dégueulasse. Mais là, le 4, tu te dis, mais en fait, t'as tellement rien à te mettre sous la dent que tu ne saisis pas. Et moi, ce qui m'hallucine, parce qu'on l'a quand même pas dit ça, c'est que, bon, certes, les réals d'Expendables, si ce n'est Stallone sur le premier, ont jamais été des grands noms, hein, mais sur le 4, moi, j'avais un peu d'espoir parce que c'était Scott Vaughn. Et Scott Vaughn, plus tôt dans l'année, a réalisé un truc qui n'a pas eu une très bonne note sur Écran Large, mais que avec Déborah, on a un peu plus apprécié, qui est Projet Extraction, sorti sur Netflix avec John Cena et Jackie Chan, et qui était un film pas très bon, hein, mais qui était honnête et qui même, dans sa manière de filmer Jackie Chan, et je trouve pas inintéressant par rapport à ses référents hongkongais qu'il maîtrise pas trop mal. C'est pas attention hein, c'est pas de Soyark et tout ça, mais c'est filmé avec un temps soit peu de maîtrise. Et là, mais les découpages des scènes d'action, mais c'est ahurissant de nullité. Et vraiment c'est un des trucs les plus insultants que j'ai eu dans le domaine depuis très très longtemps.
Surtout que il y avait Iko Uwais et Tony Ya au casting, oui. Parce que après le 3, je pense qu'on est beaucoup à s'être dit bon déjà qu'on n'attendait pas grand-chose de cette franchise, là c'est bon, la barre est au sol. Mais j'avoue que Iko Uwais et Tony Ya, leur annonce, ça m'a grave motivée. Mais bon, bah, ils sont sous-exploités, mais de façon tellement, dégueulasse à ce niveau. Iko Uwais va vraiment, il t'envoie genre 4 coups de pied et puis voilà, ça y est, il est battu.
Ouais, par Statham. Donc tu dis en fait, même la base de ce que t'es venu chercher, ou limite t'accepterais qu'il n'y ait même plus de scénario, et même le côté second degré finalement, que pour le coup j'aime pas trop dans le cinéma d'habitude comme ça, mais dans Expandables 2 ça m'amuse un peu, tu vois, Chuck Norris qui vient faire une vanne, Bruce Willis et Schwarzenegger qui se renvoient des punchlines à la gueule, tu fais ok, c'est pas fin, mais ça me fait un peu marrer. Là t'as tellement même plus ça en fait, passer la mort de Stallone qui est censé être traité un peu avec gravité alors que tout le monde sait au fond qu'il va revenir.
Non, moi je te jure, je savais pas.
Alors c'est vrai que du coup, comme tu me l'avais dit, j'attendais un peu le truc, mais en même temps tu le sens, ils mettent tellement l'accent dessus, tu dis il s'est passé un truc.
Mais moi, je pensais
pas
que c'était vraiment
là-dessus.
En coulisses, c'était en prod, il y avait quelque chose qui avait merdé, que c'était pour ça qu'il mourait aussitôt. Enfin, vraiment,
on commençait déjà à dire je vais faire une autre vidéo sur Stallone.
Mais oui.
Et puis non. Et puis le retour de Stallone est quand même incroyable. T'as vraiment le vieil hélico qui débarque hors champ, et puis d'un coup, boum, gros plan sur lui en mode c'est bon, je suis là, et tu fais ah, ça n'a pas du tout été tourné en studio sur fond vert, c'est merveilleux.
C'est bon, Déborah, t'as un deuxième point.
Oui, c'est bon. Vas-y, je me calme un petit peu. Je profite.
Allez, on passe au troisième pire film de l'année selon l'équipe d'Écran Large, et c'est un Marvel, c'est Ant-Man 3. C'est Quantum Mania, non, c'est ça? Ant-Man 3,
Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania. 2 points Quantum Mania, ouais.
Bah, voilà. Peut-être c'est toi, Judith, qui peux en parler, parce que c'est un des premiers blockbusters que tu voyais en tant que vraiment rédactrice d'Écran Large. C'était une sorte de baptême du feu, on t'a clairement jeté sous le train en se disant que ça allait être drôle. Et ça l'a été très drôle.
Oui, si on veut. En plus, non, mais ce qui était ouf, c'est que moi, j'arrivais dans votre univers de pro. Enfin, non, mais j'avais déjà fait des projections presse, mais votre là, voilà, vous étiez dans sérieux, je voyais là. Antoine à côté de moi, il prenait des notes devant Ant-Man 3. Incroyable.
Je prends des notes devant tous les films, d'abord, madame. J'ai pris des notes devant Dogman,
donc,
tu vois.
Donc, okay, voilà. D'accord. Donc, on va essayer de regarder ça un petit peu sérieusement. En fait, c'est pas possible. Non, parce que je pense que tout le monde a compris la laideur visuelle de ce film, hein, avec les images de MODOK là, qui ont tourné toute l'année. Il est devenu un mème à lui tout seul.
On en a même fait un coussin pour quelqu'un de
l'équipe.
Ouais,
bah, je pense que, franchement, ce coussin, dans 5 ans, il se retrouve dans une brocante et ça devient le nouvel objet maudit du prochain Conjuringverse.
Mais la None 4, la malédiction de MODOK.
Je sais même pas par où commencer, parce que donc voilà, on a compris que c'était vraiment la pire soupe numérique, enfin l'une des pires soupes numériques de l'année en termes de visuel. Alors c'est pareil, les fonds verts qui sont extrêmement mal exploités, il y en a en long, en large et en travers, mais c'est-à-dire que même dans tout ce que le film pourrait avoir d'un tout petit peu intéressant ou un tout petit peu malin, il s'auto-saccage à chaque fois. Donc je pense notamment tout simplement à la mise en scène des rapports de taille, parce que Ant-Man, son intérêt quand même, c'est parfois d'être tout petit ou parfois d'être très grand, tu vois. Et les moments où donc il est soit tout petit, soit très grand, le montage et la mise en scène trouvent toujours le moyen de faire que toute échelle disparaisse du plan. Donc tu sais jamais s'il est petit ou grand parce qu'il n'y a jamais aucun point de comparaison. Donc ça n'a aucun effet. Je pense notamment à la scène de retrouvailles avec sa fille où ils sont censés tous les deux être immenses. Et donc c'est un peu, c'est censé être un petit peu drôle qu'ils courent l'un vers l'autre et qu'ils se retrouvent et qu'ils se serrent dans les bras. Mais en fait, tu sais qu'ils sont grands juste parce que le bruitage fait boum, boum, boum quand ils courent, parce qu'autour d'eux, il n'y a personne. Tu sais pas quelle taille ils font. Donc, quel est l'intérêt de cette scène? Et c'est pareil quand il est tout petit, hein, il n'y a que ça tout le temps. Alors, c'est un petit peu drôle aussi que ça s'appelle Ant-Man et la guêpe, parce que la guêpe, clairement, ils ont voulu lui donner l'importance à un moment donné pour se donner, un vernis un petit peu paritaire. Mais bon, celle-là, elle est complètement évacuée dès le départ. Elle sert absolument à rien. La conception aussi de tout simplement du monde quantique.
C'est sur Expendables 4, elle va pas s'arrêter.
Non, je vais faire vite, mais la conception du monde quantique, c'est qu'une version soi-disant miniature, et encore on s'en rend pas compte à la caméra, mais de notre propre monde. C'est-à-dire que là où on pense qu'on va être dans une dimension totalement différente de ce qu'on connaît nous sur Terre avec nos repères habituels, c'est-à-dire que là on se retrouve dans un monde dans lequel il y a de la végétation, il y a des animaux, il y a des bars,
ouais,
et tout
bar,
ça.
J'avoue que
et qui ressemble. mais Bill Murray, il y a même Bill Murray. Non, puis en plus, même la végétation et les animaux, je veux dire, ils ressemblent relativement à ce qu'on a sur Terre. Ils vont même pas rechercher des couleurs ou des formes particulièrement spéciales pour nous dépeindre.
Aussi des couleurs un petit peu spécifiques.
Oui,
ça le problème.
Ouais, couleur chiasse aussi.
Un peu de ocre par-ci par-là.
Non, mais quoi, d'ailleurs, voilà. En plus, en termes de couleurs, enfin, tout est tellement fade. Bref, c'est pareil. Je veux pas rester 3 heures dessus, mais il y a vraiment absolument rien à récupérer de ce film. Si ce n'est le seul petit point pertinent, c'est peut-être le dernier plan où ça se termine sur Ant-Man qui mange un gâteau dégueulasse et qui dit qu'il est dégueulasse, il me semble, pour son anniversaire.
Absolument.
Voilà, et qui est vraiment un clin d'œil au public à base de voilà, vous venez de bouffer de la merde et vous avez pas aimé, allez, bon vent.
Mais je trouve ça intéressant que tu parlais de ces, enfin, notamment de la question de la place de la guêpe qui évidemment est terrible. Et moi, ça me rappelle finalement ce qu'on s'est dit en sortant de The Marvels plus tard, c'est que dans tous les films un peu comme ça, t'as toujours un peu deux intrigues. T'as l'intrigue A principale et l'intrigue B un peu secondaire. Et là, t'as ça au début d'Ant-Man 3 parce qu'ils se retrouvent séparés quand ils voguent dans le monde quantique. Et donc, t'as Evangeline Lilly qui traîne avec Michael Douglas qui sait plus marcher et Michel Pfeiffer. Pendant qu'il y a Ant-Man qui fait des trucs plus intéressants avec sa fille. Et en fait, tu sens à quel point ils sont cadenassés par ce code-là, en fait, de devoir se dire t'as deux intrigues pour essayer de donner du rythme au récit, mais tu t'en bats tellement la race que ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'à côté, The Marvels, qui ne le fait quasiment pas, s'en sort mieux parce qu'en fait, il a le mérite d'épurer ce récit-là en se disant j'en ai pas besoin, je laisse faire. Et bon, évidemment, bon, on en a beaucoup parlé sur Écran Large parce que nous, c'est. Enfin, moi, mon dada, évidemment, c'est la question des effets visuels. Donc là, Ant-Man 3, c'est un truc. Enfin, ça a créé. En fait, je pense que c'est quand même amusant parce qu'il n'y a aucun film, je pense, cette année. À part peut-être un autre qu'on évoquera plus tard. Mais,
le film dont on ne prononce pas encore le nom.
Mais il y a tellement peu de films qui ont autant fédéré. Moi, je sais qu'en étant très fan d'essais sur YouTube et tout ça, j'ai vu peu de films qui parlaient autant de mise en scène, de questions des effets visuels que sur Ant-Man 3, parce qu'ils symptomatisent tellement ce qui ne va plus dans le système de Marvel, qu'on a déjà pas mal évoqué sur les pré-prod de Rocher, donc les tournages qui le sont tout autant, et donc le rattrapage en post-prod des éléments. Mais tu parlais des fonds verts, mais il faut quand même rappeler que moi, ça m'a motivé une vidéo sur le stagecraft, parce que le film a utilisé pas mal de stagecraft, parce que Peyton Reed en avait lui-même employé sur The Mandalorian, et donc il était a priori conscient de comment on exploite donc, ces murs d'écran LED qui permettent de créer des nouvelles perspectives et de renouveler la manière de faire des effets visuels numériques. Et là, quand tu vois Ant-Man 3 et que tu vois les moments où ils utilisent le stagecraft, c'est tellement dégueulasse que tu pètes un câble devant. Et vraiment, j'ai hâte dans 5 ans que les gens expliquent un peu quelle a été l'existence de ce film-là d'un point de vue de la création, parce que c'est ahurissant de voir à quel point on te chie à la gueule d'un point de vue technique.
C'est notre nouveau nom, écran LED. Pardon.
Non, mais c'est difficile d'en dire plus sur Ant-Man 3, tellement vous avez déjà suffisamment raconté comment le film était vraiment horrible. C'est juste que moi j'ai été parfois étonné parce que quand on l'a regardé en Projo Press, du coup il y avait Antoine à côté de moi, c'est vrai qu'il prenait des notes en effet, mais même si c'est pas lui qui a fait la critique au final. Mais en fait, vraiment, moi ce qui m'a surpris, c'est je suis un peu triste de ne pas l'avoir vu en salle, c'est d'avoir la réaction des gens quand ils ont découvert le visage de MODOK. Parce que moi, je me souviens quand j'ai découvert son visage, j'ai regardé Antoine.
Il m'a regardé.
J'ai explosé de rire, en fait. Et dans la salle, personne riait. Ni Judith, ni Geoffrey.
Mais non, mais moi, quand vous avez rigolé, je me suis dit, non, mais en fait, je peux pas commencer. En fait, c'est comme la nonne, tu vois. Je me dis, j'essaie de prendre ça au sérieux jusqu'à ce que le film soit fini, parce que là, c'est pas possible si je commence à exploser de rire maintenant.
On juge, moi qui prends des notes, mais on voit que Geoffrey est quand même à une forme de religion dans les films où il prend tout très au sérieux pendant qu'il le regarde. Et
non,
c'est
mais
beau.
Moi, à ce moment-là, j'ai explosé de rire. Mais enfin, bref, peu importe pour MODOK, j'ai abasourdi. Je me suis dit, mais ils sont allés jusqu'où, quoi? Genre, ils ont osé, les gars. Ils se sont dit, ça passera, les gars, pas de soucis. Non, en plus, moi, j'étais un petit peu déçu parce que j'avoue que je suis peut-être celui qui déteste le moins les Ant-Man. D'ailleurs, je pense que, en fait, il s'appelle Ant-Man et la Guêpe Quantumania parce que le deuxième s'appelait Ant-Man et la Guêpe et qu'en fait, le prochain, le quatrième, s'appellera Ant-Man et la Guêpe Quantumania, un autre mot. Et le cinquième, pareil, en fait, c'est toujours les titres se rajoutent entre eux. Donc, c'est ma théorie. Et non, en plus, moi, je déteste pas Ant-Man, mais en effet, donc le jeu d'échelle, ils sont jamais utilisés, donc c'est un peu con. Mais surtout, je trouvais que le film était, pour une fois, pas idiot dans la manière dont il démarrait, c'est-à-dire que ça démarre extrêmement vite. Pour une fois, on reste pas 15 ans sur Terre pour nous raconter à quel point machin est triste de pas voir machin ou machin truc bidule. Bref, des trucs nuls à chier, quoi. Et en fait, très vite, ils sont emportés dans ce monde quantique avec une histoire de machine qui bug. Et direct.
J'adore quand Alexandre résume les films, quoi. C'est.
Non mais voilà, excusez-moi, résumez mieux ça. Il y a leur machine quantique qui se déclenche toute seule et puis ils sont aspirés. Et après.
C'est le bruitage officiel.
Je crois que les humoristes chez Combini font pas mieux. Hein,
je suis un humoriste, pas de Combini. Non mais du coup, je me suis dit, ah bah vas-y, ça démarre bien. Et en plus, je trouvais aussi que le prologue, un peu avec Michel Pfeiffer et ce méchant, ou en tout cas ce personnage qui débarque chez elle, que nous on sait, qui est joué par Jonathan Majors. Dont on sait que probablement ce sera le méchant du film puisqu'on a vu les bandes annonces. Je trouve en fait c'était une bonne idée, mais le problème c'est que le film surfe sur l'idée de
oui, alors moi je sais qu'il y a un gars qui est bizarre, mais je vous dirai pas qui.
Mais nous on sait, donc ça n'a aucun intérêt. Genre moi je sais que tu connais ce gars. Je sais que tu connais le gars qui est méchant dans l'univers.
Il y a mis une heure avant de se décider à leur parler du truc.
Mais oui, mais c'est ça en fait. Genre les personnages ne peuvent pas avancer alors que nous on sait déjà ce qui se passe. Donc mais juste c'est nul à chier. Genre on est quand même dans un univers où les personnages avancent pour découvrir quelque chose dont on a déjà connaissance et eux ils sont en galère parce que quelqu'un refuse de leur dire, ou genre ah oui alors d'ailleurs fallait que je vous dise, ah bah attendez, il y a Bill Murray qui arrive, on fait une pause, alors on passe sur une pause. Mais c'est usant quoi, les films ils durent 2 heures et t'as l'impression qu'en 2 minutes ça aurait pu être résumé. Enfin, bref, moi ça me saoule, mais c'était une belle expérience.
Il faut
vivre ça au cinéma. Hein.
On peut faire quand même un petit point sur le personnage de Kang, qui est un peu un des gros problèmes du film, puisque c'était celui qu'il présentait officiellement pour la première fois, pour ouvrir la phase 5. Donc c'était un peu la grosse attente. C'était pas juste Ant-Man 3 et la guêpe qui sert à rien dans celui-là, alors que dans le deuxième, elle avait un rôle un peu plus intéressant quand même. On est d'accord là-dessus, moi, Alexandre et moi. Mais là, c'était l'ouverture de la phase 5, le nouveau méchant, le prochain Thanos, ce mec est surpuissant, machin et tout ça. C'est un peu le gros problème du film, c'est qu'au final, personne, je pense, est ressorti de ça en se disant « J'ai hâte de revoir Kang et ses doubles égyptiens, je ne sais pas quoi, là, dans l'arène à la fin.
Bah, » c'est-à-dire quoi, le film a un double problème, genre Kang et Jonathan Majors, quoi, genre, c'est quand même assez fort. Jonathan Majors, je défendais son jeu, vraiment, dans Creed 3 et tout ça, bon là, qu'est-ce que je peux défendre ?
T'as la recassette du Stallone, elle est forte. Hein.
Mais, enfin, il se fait battre par des fourmis à la fin.
Et pour genre... une fois, c'est lui qui se fait battre.
Oh mérité. Heureusement que ces réunions sont pas enregistrées, parce que vraiment ce serait de très mauvais goût, Judith.
Mais enfin, un méchant qui se fait battre par des fourmis, et genre quand il est pas content, il fait juste ah comme ça, il tire des rayons bleus. Et moi, je suis censée le voir comme la nouvelle menace intergalactique multiverselle. Mais c'est quoi cette connerie ? Enfin, c'est quoi cette arnaque sur la marchandise ? On nous vend un personnage ultra sombre et mystérieux et complexe dans la saison 1 de Loki. Bon, bon, on a vu ce qu'ils ont fait dans la saison 2, mais encore, c'était pas sorti à ce moment-là. Et là, genre l'introduction du grand méchant, il se fait battre par des fourmis. Non, vraiment, j'ai du mal à intégrer cette donnée.
Mais tu préfères pas ça à un scientifique qui parle comme... ça, pour montrer qu'il est un peu taré, voilà. Moi, je trouve son jeu déjà, il jouait ça comme du Shakespeare dans Ant-Man 3, et alors là, après il a l'idée de mettre les variants avec quelque chose de différent à chaque fois pour te montrer que, ils sont un peu toc-toc, quoi. Tu te dis, mais vraiment, résumer ça à un toc ou un truc comme ça, c'est débile au possible, ça n'a aucune subtilité, pitié, arrête, quoi.
Cette espèce de conseil des Kang à la fin, c'est quand même un des trucs les plus ridicules. Enfin, c'est gueule,
j'ai pas revu la scène, faudrait que je la revoie parce que.
Bah, t'as genre 3 versions de Jonathan Majors avec des filtres sur la gueule, ouais, et bah voilà.
Avec un maquillage grandiose.
Et d'ailleurs, pour ajouter un élément sur le problème que moi je trouve qui est incroyable dans ce Ant-Man 3, c'est qu'on est à un stade où Marvel est toujours incapable de tuer ses personnages. Et moi, ça me tue en fait. On est à Ant-Man 3. Ant-Man est censé se battre, on l'a teasé dans la bande-annonce, comme quoi il allait avoir un énorme combat face à ce fameux Kang, comme quoi il allait probablement avoir des péripéties dingues, nous disant que attention, ça va retourner le MCU parce que le multivers ouvre, ou je sais pas quoi, des conneries quoi. Et en fait, personne ne meurt, il ne se passe rien, il y a le méchant qui a disparu, mais en fait, il y en a, comme il a 12 000 versions, on s'en bat les couilles. Et du coup, bah là, ils refont leur petite vie. La guêpe, elle est là. Michelle Pfeiffer, elle est là. Michael Douglas, on ne sait plus s'il est là ou si c'est quelqu'un d'autre. Y a toujours sa fille qui est là. En fait, cette aventure, si elle n'existe pas, le MCU n'a pas changé. Et c'est ça qui est très, très triste pour le MCU. Voilà, c'est juste. Y a
ça
un film.
Un peu l'état du MCU actuellement.
Bah ouais, ouais, y a un film, mais en fait, si on l'enlève, bah, il ne s'est rien passé. On nous a juste présenté un méchant qui est mort. Bah, super, merci à tous.
Eh bien, merci beaucoup, Ant-Man a été habillé pour 3 hivers. Si on restait dans l'horreur super-héroïque avec le film que tout le monde attendait, surtout Mathieu, parce qu'il profite de chaque occasion pour dire « Et on n'a pas encore parlé de lui, j'y hâte !» Donc en deuxième position, deuxième pire film de l'année, c'est The Flash.
Aïe, 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 The Flash.
Le carambolage à tous les niveaux de l'année, je pense qu'il sera dans les flops d'absolument tout le monde sur la planète
Terre. Il faut quand même un peu rappeler le contexte, parce qu'en plus, The Flash, bon, c'était évidemment pour DC, c'était son film, c'était le film qui était censé relancer un peu DC, ou du moins corriger, comme ils adaptaient plus ou moins Flashpoint, repartir de zéro avec ce film-là. Bon. Et nous, on avait très peur depuis longtemps, mais ils l'ont présenté à, je sais plus, la CinemaCon, mais des mois avant sa sortie. Et la critique américaine était ressortie plutôt conquise, et surtout cas exceptionnel, parce qu'on a beaucoup parlé des films qu'on n'a pas pu voir en projo. The Flash, à l'inverse, on a pu le voir assez en amont quand même par rapport à sa sortie.
Et j'ai l'impression que absolument toute l'équipe l'a vu. Sans vraiment, on y a été à
et
beaucoup
ce qui, d'habitude,
sur plusieurs projections.
Tu vois, veut quand même dire quand même que le distributeur a un peu confiance dans le film a priori, tu vois. Et tu te dis bon, s'ils le présentent comme ça, c'est qu'ils se disent le film est bon et ils savent que en laissant la presse le voir tôt pour en parler assez tôt aussi, c'est qu'a priori c'est bon.
En tout cas, Warner a été réglo sur ce coup.
Voilà.
Genre.
Et on a vu le film. On était plusieurs dans la salle. Et moi, bon, dès le premier moment où Flash passe en vitesse supersonique, où je me suis dit, ouh, déjà ça pique un peu les yeux quand même. Je n'étais pas prêt pour la scène avec les bébés qui tombent de l'hôpital en CG là on a parlé d'Ant-Man 3 mais je pense que entre ça et MODOK on n'a pas fait un coussin d'ailleurs de ça, on devrait hein, quand même parce que ça manque clairement à la rédaction.
Il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop
tard.
Déborah
note l'idée là.
C'est, ouais, voilà, c'est ça. Mais alors le bébé dans le micro-ondes c'est quand même ça fait partie des images choc de mon année. C'est tellement la catastrophe industrielle à tous les niveaux que je me l'explique plus et on en a pas mal parlé sur le site mais moi ce qui m'avait pas mal marqué avec Flash c'était et on en a parlé dans une précédente review notamment avec Spider-Verse mais à quel point The Flash c'est l'inverse absolu de ça dans le sens où c'est plus un film en fait. J'en avais parlé comme ça en disant un peu façon Magritte, ceci n'est pas un film, mais en fait c'est ça, c'était tellement sur un agrégat de trucs que t'as vu ailleurs qui en fait c'est même plus de l'intertextualité, c'est sur de l'intertextualité qui n'existe même plus puisqu'on te réfère à donc Nicolas Cage en Superman qui n'a jamais existé techniquement puisque c'était donc le Superman de Burton qui ne s'est jamais fait, on te réfère des trucs qui de toute façon n'existent pas et donc si tu ne connais pas cet univers là sur le bout des ongles bah ça te parle pas en fait, enfin ça te peut pas te parler, donc oui il y a Michael Keaton qui revient mais ça sert à rien, oui on te tease Supergirl mais ça sert à rien non plus, il y a Zod qui revient de Man of Steel mais ça sert toujours à rien et tout le film ne fait qu'avancer à tâtons comme ça pour essayer de te redéfinir un univers qui est de toute façon mort-né et t'as la sensation voilà, de voir cette espèce de d'agrégat CGI moche qui du coup ne fait que traverser du vide. Et ça, c'est un foutage de gueule, je pense, ultime, encore pire qu'Ant-Man 3, je pense. Enfin, pour moi, je le perçois un peu comme ça. Et le public a répondu, parce que d'ailleurs, le fait que personne ne souhaite aller voir le film et que ça soit l'un des plus gros crashs de l'année, alors que le film a coûté au moins 200 millions de dollars, voire plus, ça rassure un petit peu, d'une certaine façon. On se dit, ok, le public n'est pas autant un pigeon, il suffit pas de lui mettre Batman sur l'affiche de The Flash pour qu'il se déplace en salle. Mais en même temps, ça révèle à quel point ils y ont cru, en fait, et à quel point... Le cinéma de super-héros n'est plus voilà, que cette espèce de suite de pancartes de CGI moche qui en plus peut justifier parce que là la laideur est tellement ultime mais le réalisateur essaie de te dire non mais c'est normal, c'est la vision de The Flash qu'il a du monde quantique mes couilles là donc c'est normal que ce soit moche et tu dis bah non en fait c'est juste un truc ultra laid et pour une fois les gens se sont quand même bien rendu compte que c'était très moche et qu'on se moquait d'eux.
Oui, moi je suis assez fasciné par The Flash, mais vous l'avez compris, je l'ai mis au sommet de mon flop, parce qu'en fait en soi c'est un peu génial quand même. C'est-à-dire que tu vois, t'as Shazam 2, comme tu disais tout à l'heure, qui c'est du vide, tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment l'archétype du blockbuster, pensé quasiment par un algorithme, tu sais, qui enchaîne les trucs. Mmh. Et The Flash raconte presque le genre qu'il est en train de détruire, quoi. C'est-à-dire que c'est un film de super-héros qui achève le genre. Enfin, c'est-à-dire que, alors on dit toujours, ah oui, c'est la fin, mais je pense vraiment que dans The Flash, plus tard, les livres d'histoire, si jamais on fait des livres d'histoire sur le film de super-héros, le considéreront comme la porte des paradis des films de super-héros pourris, tu vois. C'est-à-dire que c'est le film qui met en scène, bah, c'est-à-dire que c'est un film qui met littéralement en scène des bulles d'univers partagés qui s'écrasent les uns contre les autres à force de faire trop de références les uns aux autres. Donc c'est comme s'il était conscient de ce qu'il était en train de faire, c'est assez ahurissant. Bon évidemment c'est nullissime, hein, c'est catastrophique, mais d'ailleurs la scène des bébés c'est peut-être la meilleure partie du film selon moi, c'est dire. Donc ouais il y a un truc assez... Je sais pas, on dirait presque une forme de sabotage. Et en plus, c'est tellement involontaire parce qu'on sait que le truc, ça fait 10 ans qu'il est en production, elle, depuis. Enfin, c'est quand même incroyable. Je sais pas, même la scène post-générique, je la trouve d'une lucidité de fou, quoi.
Aquaman,
c'est
dans le
dernier. Ouais, c'est le dernier héros encore debout de cet univers moribond qui, après une gueule de bois de la mort, s'écrase la gueule dans le caniveau, quoi. C'est ça. C'est la scène post-générique du genre qui a instauré la scène post-générique obligatoire.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think.
find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
C'est franchement, on pourrait penser que s'il n'y avait pas eu l'enfer derrière, on pourrait penser qu'il y a une forme de sabotage volontaire derrière. Je vois pas comment c'est possible autrement. Mais et le fait que ça soit produit, qu'on l'attend depuis si longtemps, qu'il était vraiment teasé comme une sorte de porte de sortie pour l'univers DC à une époque où les films de super-héros ne fonctionnent pas contre vents et marées comme à la grande époque, il y a vraiment quelque chose de presque prophétique et un peu divertissant mine de rien malgré lui, quoi.
Ce que tu dis sur la porte de sortie, enfin moi je le vois comme Expendables 4, hein,
mais c'est pas possible, quoi.
Non, mais c'est à dire que le film avait un job, il avait une mission, et on nous l'a toujours dit, c'était de rebooter le DCU en vue de la disparition de toutes les franchises et tout ça. Et cette seule mission, le film l'accomplit pas, puisque à la fin t'as Ezra Miller qui perd sa dent. Et puis il y a George Clooney qui débarque, et puis après on sait pas ce qu'est devenu tout le reste des personnages, sauf Aquaman, qu'on voit en train de crever dans une flaque d'eau. Enfin,
ouais, c'est
je trouve que dans le film il y a un tel cynisme, genre d'être conscient d'aller nulle part ou d'aller dans le mur, et presque de se dire on va en rigoler tout ça, mais non, mais moi ça me fait pas rire en fait. C'était exactement pareil dans The Flash 2.
Qu'est-ce qu'elle raconte
pas.
Elle dit n'importe quoi.
Comme dans Shazam 2, où à la fin, la scène post-générique, c'est pour se moquer de la scène post-générique du premier film en te disant que ils savent pas où ils vont avec ça, et donc la blague, c'est qu'on sait toujours pas. Et là, c'est exactement pareil, sauf que, en fait, moi, ça me fait pas tellement rire de savoir qu'un projet qui a nécessité autant d'énergie, autant de moyens, parce que 200, combien le budget déjà?
Au moins 200 millions, mais Hollywood Reporter dit c'est plutôt vers les 300 millions.
C'est intéressant, voilà. Parce que je suis en train d'écrire sur les budgets de l'année, là, et le fameux article de Hollywood Reporter où ils disent 300 millions, il a depuis été corrigé, je suis allé voir, personne n'en parle, mais il a été corrigé, et ils ont mis 200 millions hors marketing. Alors, est-ce que ça veut dire que dans le premier compte, ils ont compté le marketing 200 millions et qu'ils ont gonflé à 300 millions? Mais j'ai quand même vraiment du mal à croire que ça leur a... Enfin, que pour moi, quand ils disent 200 millions, c'est le prix du film qui leur a coûté en l'état, mais ils prennent pas en compte les 9 ans qu'ils ont gâchés.
Logiquement, dans le budget, mais ce genre de truc, mais c'est vrai que sur un cas aussi spécial qui hors norme, c'est sûr.
Parce qu'on se rappelle quand même, on se rappelle quand même de cet article, il y avait un article qui était sorti, je crois, je sais plus du tout, c'était Rolling Stone, où en gros il parlait des problèmes de scénariste à Hollywood, et il donne l'exemple d'un film, mais c'était genre 6 mois avant la sortie de The Flash, qui avait employé une quarantaine de scénaristes. Alors évidemment tout le monde a fait le lien, mais faut s'imaginer le truc quand même.
Mais il y a combien de réalisateurs qui sont passés sur ce projet? C'est un truc de fou, quoi. Il y a 6, 7, 8.
Alex semble avoir la réponse. Non.
Ouais, il y a Lord et Miller qui sont passés par là. Ah non, c'est pas eux, pardon. Il y a eu Seth Graham Smith qui est passé par là. Ensuite, il y a eu Rick Famuyiwa. Ensuite, il y a eu Jonathan Goldstein et John Francis Daly qui sont partis faire de Donjons et Dragons.
Très sympa d'ailleurs.
Ouais. En même temps, Ezra Miller, Yael a tenté de faire son scénario. Et ils ont dit, c'est de la merde. Et après, il y a Andy Muschietti qui est arrivé. Donc ça fait au moins 4, et encore, on sait pas. Enfin, c'est ce qui a été annoncé. Ils en ont annoncé 4 officiellement, mais ça, à mon avis, il y en a d'autres qui ont été proposés. Ils ont dit, le scénario est quand même pas ouf, hein. Du coup, on va pas le refaire.
Je crois que Lord et Miller, ils étaient engagés au début comme scénaristes, et potentiellement, la piste était qu'ils soient réels, et ils sont partis. Donc clairement, c'est aussi des gens qu'on peut compter comme étant.
Tu parles d'Ezra Miller, mais le côté auto-sabotage, il va jusqu'à ce niveau de détail-là, parce qu'il y a quand même une scène où Ezra Miller, l'homme le plus dangereux d'Haïti,
d'Hawaï.
Excusez-moi. La personne la plus dangereuse d'Hawaï dit qu'il faut prendre soin de sa santé mentale.
Non, mais de toute façon.
Mais bordel, comment ils ont pu laisser passer ça?
De toute façon, c'est exactement ça. C'est que c'est un film qui est malade et qui, dans un monde parfait, en fait, il n'aurait pas dû exister. On est quand même dans un monde où Warner. Efface des films qui sont terminés, qui n'ont aucun problème de production ou aucun problème judiciaire derrière, ou qui ça fait pas 10 ans qui sont pré-production, production, post-production, et que c'est la débandade. Mais par contre, The Flash, aucun problème. Les gars, on va quand même le faire. Ça fait 10 ans qu'on n'arrive pas à le faire. Ça fait 3 ans que notre casting principal, bah, il a des gros problèmes. Il kidnappe des gens, il les séquestre. Voilà, mais tout va bien. C'est tout. Et, mais bon, la personne s'est excusée, donc ça passe. Et après, bah, non, mais ça, par contre, on l'annule pas. C'est mieux parce que ça va rebooter le genre. Hein, c'est très important. Alors, on a vu que ça rebootait le genre. Hein, ça reboote rien du tout.
De toute façon, c'est ce qu'on avait dit aussi au moment d'évoquer le box-office de ces films-là. Mais à partir du moment où tu as mis autant de thunes depuis des années sur un film comme ça, en fait, c'est un Titanic. Le truc, il fonce vers l'iceberg, mais t'es obligé de le laisser faire en fait. Tu peux plus l'arrêter en fait.
C'est ça.
Donc, au bout d'un moment, tu sais, je me dis, Warner, ils ont fait les musiciens, tu sais, ils se sont dit, bon ben, on coule avec le bateau, c'est pas grave. Mais tu regardes le truc, et en fait, moi, c'est ça aussi où je me dis, le foutage de gueule, il est ultime parce qu'au bout d'un moment, ils ont abandonné. Je ne veux pas croire décemment que quelqu'un, alors que tu vois, on parle souvent des effets nuls à Hollywood, mais t'as quand même des gens qui valident des effets, qui valident des plans. Là, tu vois la climax débarquer sur cette espèce de Vienne pleine de jeux vidéo que même un Call of Duty 2 n'aurait pas voulu avoir, avec vraiment une colline et ciel bleu sans nuages et terre dune chiante. Et tu dois te contenter de ça pour ton climax qui dure 30 minutes.
Non, j'avoue que le décor de fin est hallucinant de nullité. J'ai jamais vu un truc aussi vide et sec. Tu dis, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un a décidé ça pour que ce soit aussi le néant, autant le néant, quoi.
Non, mais question subsidiaire. Est-ce que tu préfères une sorte de template Windows de base, hein, avec sa colline et son fond bleu de ciel, ou l'immense originalité de ce passage entre le temps où tu vois Henri Cavill qui s'avance, sa mère, le cambrioleur dont on ne sait pas vraiment quelle est l'identité. Quel est finalement le plus rassurant? Moi, je sais pas choisir.
On peut te dire quel est le plus original et mais traumatisant.
C'est hallucinant de lucidité. Les mecs, ils ont fait une arène où ils copie-collent des gifs de l'univers d'ici qui sont en train d'assassiner. ils massacrent Henri Cavill, le gars qui a fait le scandale de la moustache. Enfin, bordel, quoi, je sais pas.
Non, c'est quelque chose. Hein,
bah, je pense qu'un jour, on va penser que c'est une genre d'expérience sociale, un prank. Tu sais, je sais pas, il y a François Damiens. Il est arrivé à DC et ça fait 10 ans qu'il bosse sur le truc, tu sais. C'est le canular de sa vie et il va le dire dans un an. Et les Snyder Zoos n'y croiront pas. Ils n'y croiront pas, ils voudront pas le savoir.
Bon, autant Ezra Miller, enfin les Ezra Miller, parce que au cas où le film ne serait pas assez cauchemardesque comme ça, il y a deux Ezra Miller dedans.
Il y en a un qui est encore plus insupportable que le vrai.
Et c'est fort! Le seul moyen de le rendre sympathique, le personnage, c'est d'en avoir encore plus insupportable. En tout cas, ils ont vraiment dû faire des cauchemars avec l'affiche du film. Mais le film, j'avais quand même une petite curiosité parce qu'il était sens. Enfin, il introduit donc la Supergirl de Sacha Cal, je sais pas trop comment ça se prononce.
Aïe,
et voilà, étant donné que je suis très naïve et optimiste, je me suis dit, oh, franchement, elle a l'air trop cool et tout, elle a des muscles parce qu'il m'en faut vraiment pas beaucoup.
Comme Jason Momoa, t'es dans le caniveau au niveau de tes attentes.
Et oh, cette Supergirl, mais la déceuse, bon, comme tout le film évidemment, mais le traitement de Supergirl, je le trouvais tellement immonde, genre la pauvre, j'ai l'impression qu'ils ont tout fait pour la ridiculiser dans le film, pour qu'elle soit la plus anti-héroïque possible, alors que c'est quand même fucking Supergirl, quoi. C'est celle qui est censée pouvoir rivaliser avec Superman et qui juste crève comme une pauvre merde. Je trouve ça tellement aberrant pour l'introduction d'un personnage où tu te dis, bon bah quand même, il pourrait être important, il peut survivre dans le multivers.
Je crois que c'est ça le problème, c'est pas l'introduction, c'est l'enterrement du personnage spontanément. Tu vois, elle est arrivée, elle repart.
Voilà, c'est genre. Ah bon ? Ah bah il y avait du potentiel. Bonjour, quand même sur le personnage. Bon bah
après,
non, que dalle.
Dans une des nombreuses fins qui ont été coupées, elle devait revenir. Ça devait être un des trucs à la fin plutôt que George Clooney en pub Nespresso. C'est normalement Supergirl qui devait revenir.
Mais en fait,
il y a eu toutes les versions, je crois.
Dans ta critique, Antoine, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé où tu parles de la découverte de la Batcave et tu dis que finalement le seul moment de tout le film où il filme quelque chose avec un tant soit peu d'amour ou de passion, c'est quand il filme la Batmobile en fait. Parce que le seul truc qui est pas humain, parce que eux, tout ce qui les intéresse depuis le début, c'est juste foutre une Batmobile au babouillot d'une Batcave pour que tu puisses faire hey! Et autour, tout n'est que bruit numérique dont on se fout, c'est horrible.
En même temps, la promotion de ce film était assez hallucinante parce que bah, ils pouvaient pas faire la promo sur Ezra Miller pour des raisons évidentes, et ils ont quand même fait une grosse partie de la promo sur Batman en fait. Et tu regardes les affiches, au premier, bah, c'était le batarang taché de sang, ensuite c'était la Batmobile, après c'était le costume de Batman dans l'ombre et tout. Si bien que ce film, c'est vraiment le monstre de Frankenstein par excellence. Tu ne sais pas quelle licence tu vas voir, tu ne sais pas pourquoi tu vas la voir, tu ne sais pas ce que tu vas voir une fois que tu l'as sous les yeux, tellement c'est aberrant.
C'est No Way Home avec des spaghettis périmés, quoi.
Oh putain, oui, c'est vrai,
les spaghettis,
oh,
oui,
putain,
je
j'avais oublié ça, le multivers avec les spaghettis.
Et autre caméo de qualité de Gal Gadot, rappelons-le quand même.
Ah oui, putain, c'est vrai, mais quelle année.
Ah, bah sur
oui.
Le pont, non.
Ah bah oui, oui, oui.
Non, mais elle a signé un contrat pour être dans les caméos toutes les merdes de l'année, c'est pas possible. Hein.
Ben Affleck aussi qui se fait bien chier. Tout le monde est au top.
Bon, arrêtons sur The Flash. Avant d'arriver au top 1, on va peut-être faire le moment où chacun peut vider son sac sur.
Au flop 1.
Au flop 1, avant d'arriver au flop 1. Merci beaucoup, Alexandre. C'est pour ça que tu es utile dans l'équipe. Donc, les mentions spéciales. Chacun, chacune a 2 minutes pour parler d'un film de merde que les autres n'ont peut-être pas eu, ont peut-être eu la chance de rater. Antoine, ton flop de l'année personnelle.
En vrai, tout le monde ne va pas être d'accord là-dessus, mais au Festival de Cannes, il y a un film qui m'a particulièrement énervé, mais comme peu de films m'ont énervé cette année, et pourtant il y a une bonne note sur Écran Large, puisque c'est pas moi qui ai écrit la critique, et c'est Club Zero de Jessica Hausner, qui était en compétition cette année, et c'est ça qui est honteux, c'était que ce film soit en compétition, puisque, donc pour faire très vite, c'est l'histoire de Mia Wasikowska, qui joue une prof un peu chelou, qui débarque dans un lycée privé, et où elle initie en fait à des cours de nutrition avec un concept qui en gros est de dire ne mangez plus, voilà, et qu'en gros tout ça c'est dans la tête, et que elle peut dire aux élèves en gros de ne plus manger, et à tel point qu'elle a créé en fait une forme de secte qui est non seulement grillée au bout de 3 secondes de film, parce que la mise en scène est d'une grande finesse avec ses grands plans fixes et ses petits travelling pour bien te montrer que quelque chose ne va pas en grand angle, et je trouve le film d'une bêtise crasse, et en fait ça rejoint un peu ce que Judith disait sur Une année difficile, c'est que le film finalement aborde plein de sujets assez complexes, notamment liés à la question de l'alimentation, mais de manière un peu globale, c'est-à-dire autant sur est-ce qu'on peut manger mieux, est-ce qu'on peut manger plus bio, est-ce qu'on peut manger, est-ce qu'on peut consommer autant d'alimentation qu'avant, notamment les questions de viande évidemment, sur dans un temps encore une fois d'éco-anxiété, et de potentiellement s'en moquer dans un contexte où t'es avec des bourgeois, dans un contexte de gens très aisés qui peuvent se permettre de se poser des questions quand la population actuelle plus pauvre n'a pas forcément le luxe de pouvoir se permettre de se poser ces questions-là. Donc il y a plein de trucs à poser que le film essaye très maladroitement, mais non seulement je trouve que c'est très vulgaire parce qu'il pose ça n'importe comment et il mélange tout dans une espèce de fatras en se moquant ouvertement de son personnage principal de gourou un peu chelou, et pour moi du coup toutes les interrogations pertinentes que devrait avoir le film sur ces questions-là, qui sont quand même fondamentales aujourd'hui, c'est balayé d'un revers de main dans une sorte de comédie qui est jamais drôle, de drame qui est jamais prenant, de thriller qui n'est jamais tendu, et avec des acteurs qui ne savent, qui jouent très mal, une absence totale d'investissement de tout le monde, et je trouve le film absolument infernal à regarder. Voilà.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Déborah.
Moi j'ai envie de tricher, voilà, parce que c'était dur de faire qu'une seule mention spéciale, du coup j'en fais une à Disney.
T'as toujours 2 minutes pour parler, je m'en fous.
Mais voilà, donc Disney en règle un peu plus générale, avec Peter Pan et Wendy, La Petite Sirène et Wish. Peter Pan et Wendy, donc c'est le remake en live action qui est sorti sur Disney+, et qui est là encore du gros foutage de gueule, parce qu'ils ont réussi à désenchanter le pays imaginaire, et ça je trouve ça très fort. Sur tout le film, t'as l'impression d'être à Quimper. J'ai quelque chose avec cette ville aujourd'hui. Mais t'as l'impression d'être à Quimper, un hiver un peu pluvieux où t'as du crachoir dans la gueule comme ça, donc pas forcément le monde merveilleux auquel on s'attend. Surtout qu'en plus, ils ont enlevé la lagune aux sirènes, très probablement parce qu'il y a la petite sirène qui allait sortir quasiment dans le même temps. Ce qui m'en vient donc à ce film-là qui, ça a pas été, c'était pas suffisamment une déception pour le mettre dans mon top, parce que je reconnais quand même un peu vite fait quelques petits trucs quand même de caractérisation qui sont assez sympas, mais sinon là encore le principe de prendre un monde magique, donc là le monde magique de l'Atlantide et tout ça, et de le dévitaliser totalement, si bien que là l'Atlantide c'est des cailloux avec un peu de vase dessus pour que ce soit confortable quand elle s'asseye, et voilà. Donc ah oui, il y a Javier Bardem aussi, je sais pas ce qu'il fait là, je comprends pas, je pense que lui-même ne sait pas trop ce qu'il fait là, genre entre ça et Enzo le Croco, très dur fin de carrière, je prophétise mais
parce qu'il est dans La Petite Sirène aussi du coup, et là aussi on se demande ce qu'il fout là.
Ah oui, c'est,
oui, c'est ce que je dis. Ah, je croyais que t'étais encore sur Peter Pan et la lagune, pardon.
Là, elle écoute plus.
Judith, elle est à moitié attentive en réunion.
Non, c'est Jude Law qui est dans Peter Pan et on sait pas ce qu'il fout là.
Ah ok, non, mais je l'ai pas vu celui-là. J'étais bloquée sur la lagune et moi aussi je trouve ça incroyable qu'il l'ait enlevé. Mais d'accord,
oui, voilà.
Ce qu'il fait Antoine devant Ant-Man 3 quand tu prends des notes, il est attentif.
Et enfin, parce que je manque de temps, Wish, donc le nouveau film d'animation pour fêter le centenaire de Disney, qui est juste une aberration totale. Avant, il y avait toujours cet acquis, c'était aller voir un film Disney. Peut-être qu'au niveau du scénario, ça allait merder, au niveau des chansons, ça allait merder, mais t'avais la certitude que le film allait être beau. Et bah, avec Wish, ça prouve qu'avec 200 millions de dollars, et bah non, on n'est plus du tout sur cet acquis, parce que bah, le film est moche. Et en plus d'être chiant, il est moche, vraiment. Et je trouve que pour un Disney, c'est juste le pire de ce à quoi on peut s'attendre.
D'accord, bah c'est exactement à cause de toi que les gens pensent qu'on est anti-Disney. Vraiment, tu viens de défoncer Disney pour l'année, bravo. Alexandre, c'est quoi ton flop personnel ?
Bah c'est marrant parce que du coup, tu parlais de anti-Disney. On nous reproche aussi d'être pro-Netflix, d'être anti-Netflix. Donc là, on va être un peu anti-Netflix. Je vais tricher un peu comme Déborah aussi. C'est-à-dire que moi j'ai rien contre les productions Netflix. Il y en a plein que j'adore. Manque de David Fincher... Cette année, Le Monde Après Nous,
The Killer de David Fincher,
The Killer de David Fincher, potentiellement The Irishman, Roma
de David Fincher.
Voilà, bon, c'est possible qu'il y ait une petite fixette Fincher, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment rien contre les productions Netflix. Je trouve pas qu'il y a un problème de c'est Netflix, donc c'est de la merde. Vraiment pas. Mais cette année, on a quand même été gratiné en tant qu'abonné, hein, puisque déjà, on a eu Agent Stone. Avec Gal Gadot, on parle de Gal Gadot, elle est partout. Elle est aussi dans Agent Stone, on aurait préféré qu'elle n'y soit pas et que le film n'existe pas non plus. puisque c'est donc Gal Gadot qui se la joue Ethan Hunt, mais sans scénario intéressant, ou en tout cas un scénario ultra basique quoi, de film d'espionnage, qui se croit un petit peu inventif, ou en tout cas original, puisqu'il se la joue jeu vidéo grâce à une IA encore, parce que l'IA est partout en ce moment. D'ailleurs Mission Impossible 7 quoi. Donc ça c'était bien naze, d'ailleurs je ne l'ai même pas fini. Voilà.
Moi je l'ai fini, j'ai écrit dessus, je peux confirmer, c'est nul jusqu'au bout.
Bah, en fait, surtout je le regardais, j'avançais et je me suis dit tiens, je vais mettre pause, je le refinirai demain, et puis c'était il y a 6 mois. Voilà. Donc je l'ai toujours pas fini. Et après il y en a eu d'autres, hein. Donc il y a eu The Mother que j'ai pas vu mais que Geoffrey
je l'ai vu jusqu'au bout et c'était nul.
Que c'était bien naze. Il y a We Have a Ghost, il me semble que c'était bien naze aussi, Judith.
Oui, bah moins pire que ce que t'as cité je pense, mais vraiment pas terrible du tout.
Voilà. Et moi du coup après aussi je me suis maté Murder Mystery 2 parce qu'en bon fan de Woody Allen, je me suis dit que peut-être ce serait meilleur que le 1. C'est un peu vrai mais ça reste quand même nul. Pour vous dire la caractérisation des personnages, il y a un personnage indien dans le film, il a pas de prénom, c'est juste Maharaja. Voilà. Donc on sait pas si c'est son prénom ou si c'est juste que c'est un Maharaja, mais bon voilà la caractérisation de ce genre de film. Donc c'est toujours passionnant et surtout que ça coûte des millions hein, puisque c'est avec Jennifer Aniston et Adam Sandler. Donc voilà ils se mettent bien aussi en termes de salaire. Et donc là je pense que la dernière petite pépite que Netflix nous a offerte c'était Le Voleuse de Mélanie Laurent, hein, une sacrée pépite avec une sorte de twist à la Expendables 4 à la fin, assez très très inspiré quoi, vraiment on se demande si c'est le film est tellement mal fait qu'on se demande si c'est mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on pense ? Peut-être, en effet, que c'est vraiment ce qu'on pense. On peut penser que c'est onirique, voilà, que c'est une vision d'une certaine manière, parce que des personnages se retrouvent, en gros, parce que quelqu'un est censé être mort, voilà. Et on se dit, c'est une vision, c'est beau, tu vois. Enfin, c'est pas beau, mais c'est onirique, c'est poétique, il y a une envie de poésie. Non, non, en fait, c'est la réalité, la personne n'est pas morte. Voilà, donc c'est bien nul à chier. Donc Netflix nous a fait des films de merde aussi cette année, c'est régulier, mais on en a eu quand même un bon gratin.
Surtout, Voleux se termine avec quelqu'un qui demande. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, et l'autre lui répond « Je te raconterai, c'est une longue histoire. » Enfin, ça, c'est absolument génial. Moi, mon flop perso de l'année, c'est un film dont tout le monde se fout. Judith et moi, on l'a vu. Ça s'appelle Bodies, Bodies, Bodies. C'était la petite production malicieuse du studio A24, qui est un espèce de néo-slasher. Je dis néo-slasher vraiment parce que c'est un film où des gens malins de la génération, c'est quoi ? C'est les millennials ? Comment on appelle ces cons ? C'est les millennials ? Ouais,
attends, non, eux, c'est même ceux d'après.
Parce que Geoffrey est un boomer.
Les Gen Z.
La Gen Z, ouais.
Bon, en tout cas, ils sont là, ils vont à une soirée. Il doit y avoir de l'AMD qui traîne. Il y a des colliers colorés. Ils sont trop, voilà, ils sont trop contents d'être là. Il y a une tempête. Souviens-toi, l'été dernier, en fait, ils sont isolés dans un endroit et ils jouent à. Comment on appelle en français bodies, bodies, bodies ? C'est chat perché ?
Corps, corps, corps.
Corps, corps, corps. Très bien. En tout cas, ils jouent à un jeu dans le noir avec la, téléphone de leur, avec la lumière de leur smartphone. Et en fait, il y a vraiment quelqu'un qui meurt. Et du coup, après, il faut savoir ce qui se passe. Alors, dit comme ça, ça pourrait être drôle. Hein. Je la regardais vraiment en me disant que ça allait être amusant, moi qui aime les slashers. Et c'était d'une chiantitude absolue. Et c'est complètement nul. C'est plat. En fait, c'est même pas la peine de faire un discours dessus, tellement c'était, c'était le vide, le néant. Alors du coup, j'ai refilé la critique à Judith à l'époque, merci beaucoup. Mais vraiment, j'ai regardé ça en me disant, mais c'est même pas du niveau d'un Scream 5 ou 6 où c'est nul, mais c'est le minimum syndical du divertissement. Là, c'est nul et c'est pseudo, pseudo-intello, pseudo-malin, parce que c'est une espèce de... De parce recul sur le
twist,
genre.
Un petit twist qui était pas une si mauvaise idée d'ailleurs, mais bon, qui était quand même très mal exploité. Hein.
Ouais, donc c'est pas bien.
D'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis rendu compte en regardant le générique de second tour de Dupontel qu'il utilise la BO de ce film. Dans son film. Ouais. Voilà. Je sais pas où le caser, je l'ai remarqué.
Bah, merci beaucoup.
Je le dis ici.
On l'aurait pas deviné. Donc,
Bon, Judith, comme c'était toi qui parlais de Buddies, Buddies, Buddies pour me soutenir, c'est quoi ton flop personnel ?
Eh bien, écoute, moi j'ai choisi Une zone à défendre, qui est un film Disney+, réalisé par Romain alors, Cogitore, si on le dit peut-être avec l'accent.
Cogitore,
d'accord. Donc, qui est un film au pitch le plus casse-gueule que vous puissiez imaginer et qui, effectivement, se casse la gueule. Donc, c'est l'histoire de François Civil, qui est un policier qui s'infiltre auprès de zadistes, donc se faisant passer lui-même pour un militant écologiste, etc. Et qui, ah là là, tombe amoureux d'une jeune et jolie zadiste, donc Lina Koudry, hein, donc qui reprennent un petit peu leur rôle de, des trois mousquetaires pour nous servir la même partition fallace. Et donc bon voilà, ça y a une histoire qui va découler à partir de ça. Alors par où commencer ? Je pense déjà qu'il y a vraiment le problème des dialogues qui sont vraiment très mal écrits. On dirait qu'ils ont été écrits par une classe de primaire qui on a essayé de briefer vite fait les problèmes, je sais pas, de la police, des manifestations, des zones à défendre et tout. On leur a dit faites-nous un truc là-dessus et voilà. Et en fait François Civil, moi j'ai rien personnellement contre lui, mais j'ai l'impression qu'il enchaîne les rôles de Minet fade qu'il interprète. Non mais c'est vrai. Enfin, je trouve qu'il a quand même, aussi bien dans D'Artagnan que là, je trouve qu'il a du mal à être saillant, quoi. Mais c'est encore une fois, c'est aussi beaucoup la faute des dialogues qu'on lui écrit. Mais voilà, il a une manière très lisse, du coup, de jouer ça, qui là ne s'adapte pas, en fait, à ce film qui essaie de nous faire croire que, quand même, oh là là, les flics, ouais, ils détruisent un petit peu ce que ces militants essaient de construire, mais ils sont quand même un petit peu gentils et tout. Et on va avoir cette espèce de parcours de soi-disant rédemption de cette personne, mais en brassant vraiment des idées à la con, à base de, bah, par exemple, Lina Koudry, oui, elle, c'est vraiment une militante hyper à fond dans ses convictions, mais à partir du moment où, je vous rassure, c'est pas un gros spoiler, où elle tombe enceinte, donc, du flic, qu'elle ne savait pas être flic, voilà, bah, finalement, elle va se dire que ce qu'elle a quand même envie de vivre, c'est une petite vie de famille bien au chaud, et que bon, le militantisme, ça va bien deux secondes. Et, enfin, je sais pas, enfin, il y a rien qui va dans ce film, tout est ridicule, et notamment, la conclusion est vraiment atroce, où on arrive quelques années plus tard, donc, le fils de Lina Koudry un petit peu grandi et on la retrouve au pied d'un arbre face à une école de petits en leur disant vous voyez la nature c'est important il faut la protéger et c'est catastrophique et en termes de mise en scène aussi tout est laid, il n'y a pas un plan qui est correct, enfin bon, c'est voilà, il n'y a rien à rattraper dans ce film.
Très bien. Allez Mathieu.
Ouais, c'est marrant, Zone à défendre, quand il est sorti, je pensais que ça allait faire, il allait avoir un gros hate watch, tu sais, ouais. Parce que sujet hyper sensible sur Disney+, qui avait l'air tout pourri dès l'annonce, tu vois, et finalement tout le monde s'en fout. Donc c'est que ça a l'air juste...
À part Judith.
Non, c'était par qui pure obligation.
Ouais, non, moi j'ai un problème quand je fais des flops, c'est que des films tout pourris, j'en vois un paquet, parce que j'aime bien les séries B, Z, etc. C'est souvent
oui,
moi qui
tiens à préciser
charge...
que c'est pas pour écran large, la plupart du temps c'est pour toi. Hein.
Non, souvent c'est pour écran large que je me sacrifie. Ouais, ouais. Et en fait, souvent j'aime pas tirer sur les petits budgets parce qu'en fait ça sert à rien, c'est-à-dire que souvent c'est des gens qui sont pleins de bonne volonté et bah c'est pas toujours réussi, mais c'est souvent réussi, pas toujours, mais parfois. Mais il y a des exceptions qui sont les trucs hyper cyniques et c'est pour ça que je voulais parler non pas d'un film mais d'une trilogie. Et oui, une trilogie sortie sur un an. Sur 6 mois même, je crois, d'ailleurs, sur quelques mois, qui est donc la trilogie Detective Knight. Des gros aides, hein, mais qui ont la particularité d'avoir en tête d'affiche Bruce Willis.
Ah.
Et donc voilà, si je veux en parler, c'est parce que pour moi, voilà, c'est des films qui sont très mauvais. Bon, voilà, c'est des films très très mauvais. Hein. D'ailleurs, bon, c'est pas le pire du pire de la Bruce Willis exploitation qu'il y a eu à l'époque, parce que grâce à Écran Large, je m'en suis tapé un paquet. C'est juste hyper fadasse. Non, le problème, c'est évidemment le système qu'il y a derrière. C'est le deuxième film de cette trilogie que je m'étais tapé pour une critique qui m'a motivé à écrire la vidéo dans laquelle je reviens sur ce système en détail. Donc, je vais pas le faire ici parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais en gros, il faut savoir donc que Bruce Willis, qui vient d'arrêter sa carrière, est malade, il est atteint d'aphasie, et que ces gens qui ont lui proposaient des grosses sommes d'argent pour avoir quelques minutes de présence dans ses films, pour tout simplement arnaquer les gens qui aiment bien Bruce Willis en leur faisant croire qu'il allait avoir le rôle principal. Bon, après tout, beaucoup de gens ont vu ça comme son droit le plus strict de se faire beaucoup d'argent sur le dos de ses fans, sauf que dans ce cas c'est quand même un peu compliqué parce que il y a le bruit court, hein, et à travers plusieurs articles, on se rend bien compte que sa maladie à l'époque était quand même un sacré secret de polichinelle et que c'est plus ou moins de l'exploitation, voire même peut-être un peu de l'abus de personne, on va pas se mentir. Donc voilà, utiliser l'image d'un comédien aussi apprécié pour se faire de la thune sur le dos de ses propres fans, je trouve que c'est un niveau de méchanceté, qui est d'avarice, qui est quand même rarement atteint, hein. Le cinéma d'exploitation a encore de belles cartouches. Et cette trilogie, je trouve, le fait qu'il en ait sorti, que les trois sortis en France dans un laps de temps hyper court, est très révélateur. Et j'ajouterai d'ailleurs, pour finir, que si vous ne voyez plus de critiques de ses ultimes films, parce que forcément, vu qu'il a arrêté, la manne va se tarir, si vous n'avez plus de critiques sur le site, c'est parce qu'à partir de ces films-là, on a décidé, dans une réunion qu'on avait fait, je crois, d'arrêter de les chroniquer, parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de participer à cette connerie, alors que les critiques cartonnaient à chaque fois.
Et c'est sorti en VOD, DVD ?
VOD, DVD, oui. Ouais, le but, de toute façon, c'est clairement que ça soit dans un bac de DVD à 5€ dans le carrefour du coin, et la personne qui n'a pas le temps de se renseigner sur tous les films qu'il fait pour Willis et qui aime bien l'acteur parce qu'elle adore Die Hard comme chaque personne sur Terre, elle va l'acheter et donner de l'argent à des gens qui vont continuer à perpétrer ce cercle infernal.
Ok, donc merci pour ces mentions spéciales pleines de méchanceté. On arrive au top 1 et je sais que tout le monde avait misé dessus. C'est évidemment Astérix, Obélix. C'est quoi l'Empire du Milieu ?
L'Empire du Milieu. Ouais,
Alors, Antoine, tu nous avais prévenu. Tu avais vu le film bien avant nous. Oui. Tu nous avais dit que c'était horriblement nul. J'ai déjà mes jeux de mots. Critique qui va canner, c'est ça ?
Et moi, il faut quand même que je rappelle que j'ai eu la chance, entre gros guillemets, de voir le film en décembre 2022, alors que le film sortait en février. D'ailleurs, pour l'anecdote, je l'ai vu du coup la même semaine qu'Avatar 2. Ça a été quand même l'un de mes plus grands écarts de l'histoire de ma cinéphilie. Et j'ai ben voilà. Enfin, je pense que je vais te laisser plutôt en parler, mais moi, sur le moment, j'en suis sorti en disant mais c'est bon, on va pouvoir s'en payer une tranche, c'est génial. Et en même temps, plus j'y repensais, plus je me disais, et en même temps, je pourrais juste m'en moquer, mais il y a quelque chose de tellement pire derrière dans le système qui produit ces trucs-là et dans tout ce que ça veut dire aussi, qui, au fond, a fait que bah, j'ai mis une étoile et on en a parlé avec beaucoup de véhémence sur le site, mais avec, en même temps, voilà, une méchanceté qui était nécessaire pour parler d'un film aussi puant.
C'est peut-être ça le truc avec Astérix, Obélix, L'Empire du Milieu, je suis à deux d'oublier le titre à chaque fois, c'est que tu l'abordes de manière, c'est le film en lui-même et le produit que c'est. Si on regarde le film en lui-même, alors je suis pas le plus grand fan d'Astérix en termes d'adaptation en prise de vue réelle, mais par exemple je sais que au service de Sa Majesté, je trouvais qu'il y avait un truc qui était à peu près, qui fonctionnait quoi, qui était fonctionnel. Je trouve que là on descend vraiment en termes de qualité de juste de simple divertissement quoi, de simple film, de simple filmons des gens qui parlent, filmons des gens qui marchent, filmons des gens qui se battent. C'est quand même sacrément fade et moche visuellement en termes de photos. Il y a beaucoup de thunes parce que ça se voit dans les costumes, les décors. Il y a plein de scènes avec plein de gens. Il y a des scènes avec des grands plans larges de bataille et tout ça. Mais globalement, j'ai beaucoup de mal à me souvenir d'une seule image du film tellement c'est quand même vraiment... C'est un peu galvaudé comme terme, mais ça fait vraiment un téléfilm de luxe, quoi. C'est beaucoup, beaucoup de thunes et vraiment pas beaucoup de regards de mise en scène. Et bon, on pourrait parler de l'humour aussi, parce que ça, c'est quand même assez catastrophique, les moments de joie de Déborah qui se décompose sur le mot humour. Oui, c'est une comédie, sache que c'est classé comme comédie sur Allociné. Mais on la cherche, parce que là, encore une fois, c'est facile de dire, oui, la comédie, c'est subjectif, tout le monde ne rit pas la même chose. C'est évident. Le fait est que je me demande si vraiment des gens ont rigolé, je dis pas... ont été amusés, ont esquissé un vague sourire parce que bah, t'es kidnappé, t'es dans la salle, du coup pour ta santé mentale tu te dis que t'as envie de sourire au moins une fois dans cette comédie pour laquelle t'as payé. Mais c'est quand même, là encore une fois, il n'y a pas de timing comique, là, la manière dont les gens parlent, dont les dialogues sont censés fuser, les échanges entre Astérix et Obélix. Bon, pourtant avec Anne et Gilles Lelouch ça va être drôle, on a déjà fait des comédies, ils sont censés avoir un minimum de savoir-faire, d'expérience. C'est compliqué de la retrouver de ce côté-là. Quand on parle, pareil, de la galerie de casting de second rôle, Cotillard, Cassel et tous les autres, bon, c'est pas des manches, a priori, ils ont déjà fait des films dans lesquels ils étaient plus ou moins talentueux, même si ça dépend des points de vue et qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais encore une fois, en fait, c'est fou de se dire la somme de talent qu'il y a jusqu'au tout petit rôle, dans une certaine mesure, avant de passer au guest à la con, c'est qu'il y a des gens qui sont censés savoir faire le job. Et là, on dirait vraiment que tout le monde a été complètement en roue libre. On dirait que personne les a dirigés, que c'est pas dans un grotesque assumé, on n'est pas dans un cartoonesque total. Il y a des moments qui sont un peu cartoonesques et d'autres moments qui sont pas du tout là-dedans, donc ça a toujours le cul entre deux chaises. Donc c'est quand même un gros problème pour un film qui est juste, on nous a dit, ah, c'est un simple divertissement, j'y vais avec mon neveu, ma tante et ma grand-mère, bah écoute, on s'en fout, on trouve que c'est de la merde, voilà. Mais le fait est que tu vas voir ça avec une... T'as juste, on va le voir en se disant, on va pas voir le prochain Scorsese, on va voir un film qui est censé assurer un minimum le spectacle, avec... C'est un univers qu'on a tous, je pense, grandi avec Astérix d'une manière ou d'une autre. Moi, le premier des dessins animés, je les connais archi par cœur. J'attendais pas une copie conforme des dessins animés, évidemment, mais on a vu à quel point la marque Astérix a pu être réinventée, et les gens se la sont réappropriée de manière très différente. Pour le meilleur et pour le pire, c'est ça qui est un peu intéressant. Tu files les clés de la bagnole à quelqu'un, peu importe ce qu'on pense de la bande de Canet, c'est une bande du cinéma français qui est populaire. Il y avait de quoi faire un truc qui allait fonctionner un minimum. Et c'est ça que je trouve effarant dans ce film, c'est que même avec le minimum d'attente, c'est quand même sacrément vide et du coup sacrément énervant.
C'est en fait, c'est tout. Donc ce qui est intéressant dans la méthode, c'est que non seulement Pathé l'a présenté comme le plus gros budget de l'année, avec 65 millions d'euros de budget, mais en fait, le paradoxe, moi, énorme et que t'évoquais, c'est qu'en fait, le truc, c'est que tu parles de roue libre, et en fait, c'est tout l'inverse, c'est que le film est tellement contrôlé que c'est pour ça qu'en fait, il n'est rien, puisque du coup, l'éditeur d'Astérix demandait non seulement à beaucoup jouer sur qui pouvait réaliser le film, donc il fallait que ça soit un réalisateur qui ait déjà eu plusieurs succès en salle, qui ait fait un film américain, qui... voilà,
et donc, César aussi, non,
qui a eu un César, génial, voilà. Enfin, c'était espèce de cases à cocher complètement, ouais, absurdes.
Du coup, il y a deux personnes en France qui peuvent.
Voilà, c'est ça. Et donc, tu te retrouves avec Guillaume Canet, qui en plus, bon, est quand même pas le... Voilà. Moi, j'ai vu Les Petits Mouchoirs et Les Petits Mouchoirs 2 et j'ai cru que j'allais mourir. Donc, quand tu le mets sur ce truc-là, tu te dis, mais effectivement, comme tu le dis, il a une bande quand même. Il y a ce truc où l'impro peut mener à quelque chose. Sauf qu'en fait, l'éditeur d'Astérix, dont j'ai oublié qui c'était, a demandé à ce que chaque réplique soit contrôlée. Tu dis, c'est absurde. Ce qui fait que Mission Cléopâtre, tout le monde kiffe, c'est que Chabat est allé chercher tous ses potes, il les a laissés improviser. Il leur a donné des grandes lignes, mais en se disant, après, j'ai sélectionné ses talents pour qu'ils me donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le personnage que je leur ai confié. Mmh. Et là, du coup, tu vois bien que ça ne peut pas se faire parce que tout est méga contrôlé et donc... Les rares moments où ils font de l'impro, c'est pas drôle, c'est genre le signe de Zlatan de... Enfin, le... Non, pardon, le Jules. Je confonds tout maintenant. Le Jules César là, de Cassel qui est censé être wow, super drôle, mais en fait, c'est tellement des bandes de boomers tous qui comprennent même pas la vanne entre eux. C'est ça, tu te dis, il y a tellement rien... Et pourtant, tout est cadenassé. Et c'est pour ça que ça ne peut pas marcher.
Mais à la limite, pour moi, c'est même pas une vraie justification. Parce que si c'était extrêmement écrit, il fallait respecter, pourquoi pas. Mais du coup, écrivez des putains de blagues et prenez des gens qui savent écrire avec une vraie énergie comique. C'est compliqué de faire un film, un grand divertissement populaire. On a tendance à dire ça de manière un peu péjorative. Quand t'arrives à faire un divertissement qui arrive à réunir des millions de gens et faire rigoler au-delà des classes sociales des générations, c'est un énorme exploit. Donc c'est pas du tout un truc à prendre à la légère. Et je trouve que ce film respire le je m'en foutisme de toute façon, les gens vont venir automatiquement. Ce qu'ils avaient dit sur Astérix aux Jeux Olympiques, hein. Thomas Langman, je crois qu'il avait clairement dit, on s'en bat les couilles dès que les gens sont, enfin peut-être pas on s'en bat les couilles, mais dès que les gens sont dans la salle, on a gagné. Donc en fait, il faut juste les faire venir. Bah du coup, ça a moins marché avec l'Empire du Milieu.
Bah comme vous, évidemment, j'ai un peu eu l'impression de revivre l'hallucination de Brutus versus César, sauf que derrière, il y avait beaucoup plus d'argent. Et au-delà du fait que les blagues ne fonctionnent pas et qu'il n'y a pas de tempo comique, moi, c'est surtout cet humour tellement réac. Mais c'est au bout de 20 secondes, le film te le balance dans la gueule. Parce que Judith, toi, t'as pas vu le film.
Non, mais
laisse-moi,
ça ira,
laisse-moi te raconter juste les 30 premières secondes du film. T'as un plan large et t'as Astérix et Obélix qui sont dans la forêt, comme ça se rapproche. T'as Obélix, il chantonne, il fait pop 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 pop. Et comme ça, de nulle part, t'as Astérix qui fait...
C'est la musique de l'exorciste, non?
Et comme ça, de nulle part, t'as Astérix qui dit non mais là Obélix c'est pas possible, on mange trop de viande et en plus la recette de la potion magique, on n'a pas assez de recul dessus. Là tu dis wow,
putain, hein.
Qu'est-ce qui est en train de m'arriver, surtout que tu dis bon bah peut-être qu'effectivement leur habitude alimentaire et tout, sauf qu'en fait non, parce que Astérix il se rend bien compte que s'il mange pas de viande il est tout fébrile et du coup il a plus de force et donc du coup il doit manger de la viande pour réussir et tout.
Et puis,
t'as ce truc aussi sur Cléopâtre, donc qui est joué par Marion Cotillard, hein, qui a ramené Guillaume Canet évidemment, qui du coup bah, est une grosse chieuse castatrice. castratrice, je ne sais jamais dire ce mot, ouais, voilà. Et en gros, le film t'explique que, en fait, sa gonzesse, faut un peu montrer qui c'est le patron hein, et qui c'est qui porte le slip à la maison, tout ça.
Littéralement, celui qui porte la toche pour la vanne, et tu fais. Voilà. Mais, donc, du coup, ils vont se foutre de la gueule de César et de son petit glaive, là, qui sert de vanne à un moment donné dans le film. Pour, genre, petit
la métaphore du sexe.
Sauf qu'en fait, à la fin, donc tu dis, ok, tu fais de César un gros cuck, pourquoi pas, tu vois. Mais même pas, en fait. C'est, genre, à la fin, il récupère Cléopâtre, oui. Et c'est genre, c'est elle qui revient à lui, et du coup, il gagne, quoi. Et tu fais, mais niquez-vous, en fait.
C'est encore. Voilà, il y a ça, parce que du coup, au bout d'un moment, il se dit, bon, allez, vas-y, je vais faire un peu le bonhomme et tout, je vais lui dire de rester à sa place. T'as Cléopâtre, elle le regarde où, elle lui dit, bah, va te faire foutre mon coco. Et t'es en mode, hihi, bon, ok. Et puis à la fin, il est tout penaud, la queue entre les jambes, du coup, il lui envoie un. J'allais dire un SMS, mais non, un pigeon voyageur, j'en sais rien.
C'est trop drôle, parce qu'ils ont mis un son d'iPhone quand
oui,
il arrive.
Oui, voilà, le petit quick du Twitter, machin. Et donc de là, il s'excuse tout penaud et tout, et tu dis, bon, bah, c'est bon, il a compris que c'est pas comme ça, en fait, qu'on garde sa femme. Et en fait, bah, non, parce qu'il a pas le temps d'envoyer le message que Cléopâtre, en fait, elle revient dans ses bras en mode t'es tellement un homme et tout, j'avais pas remarqué, toi, elle lui saute dans les bras et voilà. Et j'étais vraiment en mode, mais.
Mais de toute façon, globalement, tous ces personnages sont pas écrits, en fait, ça, tu racontes en express des trucs qui, en fait, tiennent quelques secondes, enfin, quelques minutes dans le film. C'est perdu dans un flou énorme, t'as plein de personnages et tout ça, en fait, c'est même pas vraiment caractérisé, c'est pas une sous-intrigue avec vraiment des enjeux,
bah,
des.
Un peu quand
c'est
même.
Quelques petits gags, ouais, mais du coup, c'est réglé, comme tu le dis, en quelques oui. gags à la con, tu vois, c'est même pas. Cléopâtre est absolument pas caractérisé. J'ai vu César, j'ai l'impression qu'il dit quasiment rien, qui sert vraiment pas à grand chose, donc c'est même pas des personnages à part entière.
Mais par contre, sa crise de masculinité, ça fait partie du scénario et c'est un des arcs du personnage qui, en gros, pas d'autorité, il y a une petite caquette et voilà quoi.
Ce qui pose un vrai problème aussi, parce que, enfin, on m'a notamment dans la critique, on a pu me reprocher de l'avoir dit, mais moi, il y a vraiment le côté boomer du film qui m'agace au plus haut point, parce que tu te dis, en fait, c'est ces mecs là, on leur a confié 65 patates pour faire un putain de film Astérix, ils ne sont plus du tout en phase, enfin c'est tous des 40-50 au moins, ils sont plus du tout en phase avec la société actuelle, et c'est tout le principe d'Astérix, tu vois, c'est tu le confies à quelqu'un qui, dans le côté anachronique qu'amène Astérix et qui fait que c'est fun justement, c'est en phase avec son époque Astérix, et là t'as vraiment l'impression d'avoir un film qui a tellement 10 ans de retard, voire 20 ans de retard, à tel point d'ailleurs qu'il copie Mission Cléopâtre et le fait mal à chaque fois, mais tu te dis mais c'est pas possible d'être autant en retard d'un point de vue sociétal sur un film grand public comme ça. Moi je trouve ça mais d'une, enfin je vais pas dire dangereux, je vais pas pousser à ce point là, mais d'être autant déphasé du monde et inconscient, c'est assez dément, ce qui amène d'ailleurs à l'autre truc qu'il faut quand même évoquer, c'est ce qui a fait pas mal rager quand le film est sorti, c'est évidemment Canet qui est venu faire la chouineuse en disant non mais mon film il a coûté cher, faut aller le voir sinon il y aura plus de films français tout court, genre oui d'accord, l'industrie tient juste sur Astérix, merci, ok très bien, alors qu'on sait pertinemment que le cinéma français existe par d'autres films autour, et là cette espèce de prise d'otage du public parce qu'ils savaient que leur film était enfin pourri de l'intérieur, il fallait le justifier en disant non mais ça a coûté cher, allez le voir, parce que si on fait pas ce genre de blockbuster là, on fait pas des entrées, personne n'ira voir du cinéma français et personne financera quoi que ce soit, l'enfer.
Ouais, et pour me faire l'avocat du diable, même si j'ai trouvé le film nul à chier, hein, flop 1, c'est très bien. Revenir sur, il y a une blague marrante, donc c'est déjà bien. Parce que
laquelle,
on va voir si on est tous d'accord.
La blague sur le karatéka ou je sais pas quoi,
la gifle,
ouais. Voilà,
on est tous d'accord, c'est la seule blague marrante du film, ok.
C'est la seule qui est un peu marrante parce qu'elle nous prend un peu de
aveugle.
Elle prend un peu de vitesse parce que tu t'attends pas.
Quelqu'un a pas dit que c'était de Groland, que c'était piqué. Copier-coller sur Roland.
Ça m'étonne pas.
Ce serait pas étonnant, mais en tout cas, elle est drôle. Et deuxième chose, c'est que il me semble qu'à l'origine, Guillaume Canet ne voulait pas jouer Astérix et il voulait jouer Jules César. C'est pour ça que Marion Cotillard est Cléopâtre. Hein. Mais Jérôme Seydoux lui a dit, mais attends, mais tu serais super en Astérix. Ah oui, mais ça va être compliqué de réaliser le film, de le scénariser et d'être l'acteur principal. Ouais, mais je m'en bats les couilles. Du coup, je pense que le pauvre n'a pas eu non plus la possibilité de faire au mieux. Enfin, je pense qu'il a fait au mieux. Et tu sens quand tu vois quand tu vois comment il a essayé de chorégraphier certains trucs, notamment la scène avec les pirates, etc. Non, mais tu vois, tu sens qu'il a voulu mettre du sien, qu'il a pas voulu faire un truc nul. C'est nul, mais il a tenté quelque chose. Il a pas, je pense pas qu'il s'est totalement foutu du public.
Mais il savait déjà pas découper avant Canet. Enfin, il fait de la caméra épaule sur des scènes à table avec des gens qui s'engueulent sur les moules et les huîtres dans le bassin d'Arcachon. Là, le mec, tu lui demandes de mettre en scène une scène d'action d'arts martiaux. Le mec a jamais vu un Tsoyark de sa life. Le mec a jamais vu un Tsoyark de sa vie. Donc, je peux pas croire que le gars il sache mettre en scène des arts martiaux. Et tu regardes le truc, c'est découpé n'importe comment.
Je ne dis pas que c'est bien. Détends-toi. Je dis que je pense qu'il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions pour réussir un film de toute façon dont il n'avait probablement pas les épaules pour le faire en général. C'est juste que c'est pas de chance pour lui que ça soit bah, lui qui le fait. Et pour juste conclure sur les petits mouchoirs, nous finirons ensemble et tout le reste qu'il a pu faire, je n'aime rien et je trouve que les petits mouchoirs c'est un des pire film du cinéma français des 50 dernières années. Donc vraiment, je ne défends pas Guillaume Canet. Je trouve juste que le pauvre a vraiment pas eu de chance non plus vis-à-vis de ce Astérix.
Mais je pense que je suis un peu d'accord avec toi sur le côté le vrai sujet, c'est l'aspect industriel du film, de se dire on file autant de thunes, on fait rentrer dans des cases. À quel moment avoir un César, c'est utile pour faire un très bon film, tu vois? À quel moment un César a de la valeur à ce niveau-là pour faire un film à 66 millions qui s'appelle Astérix? Tu sais, en fait, c'est des cases qui sont un peu absurdes et c'est peut-être le retour de flamme après le Astérix d'Alain Chabat qui a été pas mal critiqué par les gens qui ont les droits et tout sur le côté, en fait, c'était pas un film Astérix, c'était un film Les Nuls et la bande de Chabat. C'est justement pour ça que ça a marché. Et peut-être qu'après, c'est devenu très compliqué de faire des films. Alors, c'est peut-être l'équivalent d'un blockbuster. Peut-être que c'est le The Flash du cinéma français, tu vois, avec un côté un peu autodestructeur et truc qui implose sous nos yeux, quoi. Mais c'est sûr qu'au-delà de Canet, ce qu'on pense de lui en bien ou en mal, c'est vraiment ce qui saute aux yeux, c'est en fait le scénario qui a validé, qui a donné les délais, qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas un script docteur qui arrive, qui a fait en sorte que ce soit ce rendu, parce qu'il y a de la thune, il y a des talents. Pour ce qu'on pense de ces gens ont une expérience, sont un CV, donc ils sont censés faire un film qui tient à peu près dans les clous. Le fait est qu'à la fin, tu te dis, le problème, c'est les producteurs. Il y a quelque chose qui a déconné. Il manquait des étapes et quelqu'un a dit bah les couilles, on prend les gens pour les cons. Et du coup, le problème va bien au-delà de Guillaume Canet, je pense.
Est-ce qu'il y a un caméo de Clovis Cornillac rajeuni numériquement?
Non, mais il y a Christian Clavier. Non. Ah, c'est vrai?
Non. Moi, j'étais en train de me dire, ah bon, j'ai oublié. Bon, je sais qu'on pourrait bitcher encore des heures sur le cinéma. Je vous connais surtout Judith et Antoine, hein, mais je pense qu'il est temps de se taire. Donc la réunion, elle est finie. Je pense que les oreilles de beaucoup de monde sifflent vu tout ce qu'on vient de se raconter. Et j'étais en train de me dire, imaginez si on devait enregistrer cette réunion. T'imagines avec la blague de Judith là qu'elle a fait tout à l'heure, je pense qu'on serait vraiment dans la merde. Donc si un jour on fait un podcast, faudra peut-être qu'on se calme, qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit dans les réunions, qu'on n'en fasse pas des réunions un peu normales. Sinon, on pourrait avoir des gros problèmes. Et ça donnerait peut-être pas envie aux gens de nous écouter, de nous suivre, de nous mettre une bonne note sur les applications de podcast. Du coup, je sais pas si on est prêt, mais j'espère qu'un jour, on le sera.
Oh oui.